park, pick my buttons when it's on. I park down my park, so you know you're la pote.
Yo, Buddha, pimp my butt, ma vie commence à sailer. Petit vol one way, mom d'une France vient d'arriver. Faire une show comme des chameaux, la radio va sauter. Timo, Rex, Tech, Jaco, Bussi, tout. Des convoyeurs cagés en France représentent la bande de fous. Le 506 que je représente. Je retourne toujours chez nous, mon woman. Plaque qui drop, woman. Plaque qui drop ou woman. Trap qui plot, ass. Buddha, la radio, la next tour, les clichés, hot de top. Ten le Morse code, qu'est-ce qui rock le spot. C'est la radio qui décide, qu'est-ce qui coupe et qu'est-ce qui trotte. Ouais, de nuit, qui décide, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui frotte. La radio représente, what the fuck it hurt. La radio représente, what the fuck it
hurt.
La radio représente, what the fuck it hurt.
CJMD 96.9 Lévis.
Hello! 8h30, c'est janvier 2019. Vous êtes à l'écoute de CJMD 96.9, l'alternative radio. Plus précisément, l'émission Les Vraies Affaires avec BY Magico Mike et son acolyte Pierre-Eugène Rioux. Bougez pas, ça commence.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
L'alternative radio. 969FM.ca.
Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite un excellent dimanche matin. Je vous souhaite d'être en congé, que ce soit seul avec votre copine, votre copain, avec vos enfants. Profitez-en, la journée est belle. Il fait pas froid encore à l'extérieur. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point la température est clémente. J'ai un genre de petit truc là qu'il faut mettre dans l'essence là pour pas que l'essence gèle quand il reste pas beaucoup. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, pas du P-Flow ou du en tout cas quelque chose comme ça que j'ai dans mon auto depuis plusieurs semaines, puis je l'utilise pas, puis c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il fait pas assez froid, j'attends qu'il fasse froid pour pouvoir m'en servir, le mettre dans mon essence, puis dire tabarouette, ça va être mesure préventive, mais malheureusement ou heureusement, dépendamment de votre point de vue, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire qu'il fait pas froid à l'extérieur, c'est le fun, c'est le moment de sortir, d'aller en profiter, même s'il y a un petit peu de brume, puis que c'est bien gros, humide, on s'habille bien, un petit manteau avec un coton. Ouais, Pierre-Eugène est arrivé ce matin, il me montre son élégant cardigan.
En véritable laine de mouton.
C'est de la laine de mouton?
Ouais,
pas de la laine d'alpaga, ça, là?
Les antispécistes vont vouloir me tuer, là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui l'a épluché, le mouton.
Très joli cardigan, by the way, Pierre-Eugène. Merci d'être à l'écoute. Je vous invite à aller faire un tour. Là, je fais ma promo tout de suite, on va s'en débarrasser là. Du côté du site internet de la station 969fm.ca. Puis quand je dis on va s'en débarrasser là, c'est pas parce que j'aime pas ça faire ça, c'est parce qu'on a quand même assez de stock dont on veut parler aujourd'hui, puis on a une heure de moins que le samedi, donc ça va rouler. 969fm.ca pour aller faire un tour sur le site internet de la station. Allez voir ça, ça vaut la peine. Il y a l'option écoute en direct, comme je vous dis à tous les jours, qui est très, très, très avantageuse aussi. Allez faire un tour sur la page Facebook des Vraies Affaires. Levez le pouce, ça nous fait toujours plaisir. Il y a une affluence anormalement élevé sur la page Facebook des Vraies Affaires ces temps-ci. On est bien contents.
Deux beaux concours
qui aident beaucoup, qui sont en ligne également. Vous pouvez aller participer. On parle d'une chemise Valin Confection sur mesure d'une valeur de 100$, je pense, qui est offert.
Exact.
Si la valeur excède, c'est aux frais de la personne qui aura remporté le concours, mais c'est toujours votre choix. Si vous voulez une chemise de 400$, il y a possibilité de le faire aussi chez Valin. Mais nous, on offre une valeur de 100$ pour cette chemise-là. Allez faire un tour sur le site, sur la page Facebook des Vraies Affaires, vous allez voir ce concours-là. Puis il y a également, messieurs, si vous aimez ça, que votre femme ait la belle peau douce en dessous de son bronzage satiné pour qu'elle soit agréable à caresser. Il y a Pierre-Eugène qui fait aussi gagner une crème pour la peau hydratante Usana, qui doit pas seulement être hydratante, mais qui doit être nourrissante aussi. Et étant donné que Pierre me casse tellement les oreilles avec Usana, même si j'embarque puis que je crois à peu près à 80% de ce qu'on me dit de cette compagnie-là, je me garde une petite réserve tant que je l'aurais pas essayé, mais il paraît vraiment que c'est sensationnel, que ça vaut vraiment la peine. Donc, messieurs, je vais le dire comme ça, pour la belle petite peau de fesse de bébé de votre blonde, la petite crème à gagner, On a moins de gens sur ce concours-là que pour la chemise. Ouais. Fait que, je veux dire, ça va peut-être être plus facile à gagner encore. Fait que venez participer. Allez voir sur la page des vraies affaires. Tout est expliqué. Comment participer justement à ce concours-là? J'en profite pour vous inviter également à aller faire un tour du côté de la page de CGMD 96.9 Lévis, l'Alternative Radio. Un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Là, je vais mettre quelque chose au clair. Il est 8h34 ce matin. On va avoir un sujet tantôt. Ben, tantôt, dans les 20 prochaines minutes, ça va se passer. Pierre-Eugène va nous parler d'une aventure qui est arrivée avec son fils versus sa télévision. Puis là, j'aimerais vraiment ça, je vous le dis d'avance, là, j'aimerais vraiment ça que les gens appellent pendant ce segment-là. Je veux avoir des réactions, je veux avoir des idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous auriez réagi? J'en dis pas plus, mais tenez-vous pas loin de votre téléphone.
Le post a été vu quand même au-delà de 100 fois sur
notre page. Puis on a eu des commentaires.
J'ai eu un commentaire intéressant que je pourrais d'ailleurs peut-être amener quand on sera rendu.
Dans lequel la personne lançait quand même plusieurs idées. Ouais. On va pouvoir évaluer ça, mais je tiens vraiment à la participation des gens. Ça va être le fun si vous embarquez puis si vous appelez à ce moment-là. Parce que, je veux dire, ça va nous balancer sur plein de pistes différentes puis sur plein d'idées différentes qu'on n'aurait peut-être pas eu. Deux têtes valent mieux qu'une, mais 10 têtes valent mieux que deux, évidemment. Fait que gênez-vous pas pour nous appeler. Quand ça sera le moment, je vais le dire. 418-903-5969. Inquiétez-vous pas, je vais vous répéter le numéro, même si vous devez commencer à le savoir pas mal par cœur au nombre de fois que je vous le répète puis que je vous cogne la caboche avec ça le matin. Merci d'être à l'écoute encore une fois. C'est les vraies affaires. En parlant d'écoute, Pierre-Eugène... Ça s'est passé vite, l'entrevue hier.
Je réécoute l'entrevue qu'on a faite avec Jimmy Parquet hier.
Un gars, soit dit en passant, vraiment très bien articulé, sympathique.
Il m'a vraiment...
J'y aurais parlé pendant 2 heures. Ouais. C'était vraiment le fun qu'on l'ait avec nous.
Puis là, on rouvre l'entrevue avec lui. Puis lui, là, il part comme une locomotive. Puis il est en train de nous raconter son début de carrière. Il est dans le premier concours provincial, que lui, il n'a même aucune idée de son potentiel en termes de force. Il est en train de nous raconter qu'il va dans cette épreuve-là. Puis il sait même pas comment est-ce qu'il va être capable de se classer. Puis là, ben, il est à la veille de nous annoncer le résultat qu'il a obtenu.
Il y avait un punch qui s'en venait, là.
Moi, j'arrive comme un gros moron, je l'interromps, je lui pose une question par rapport qui vient complètement du champ gauche. Puis là, il a essayé de revenir en plus. Ah ouais. Puis là, il dit carrément, ouais, mais pour continuer avec mon histoire...
Puis là, tu le ramènes encore plus loin.
Moi, le gars, zéro écoute. Je repars encore dans le champ.
Le gars qui fait des chroniques de communication, d'écoute passive, d'écoute active. Là, tu t'es réécouté, puis t'étais déçu de ta performance.
Hey, écoute, j'écoute ça hier, là. Je voulais mourir. J'étais morfondu. J'ai dit, voyons, non, ça prend donc bien un gros épais. Tu sais, on fait venir un gars vraiment intéressant qui est en train de nous raconter une histoire que, regarde, j'aurais juste pu me fermer à la boîte puis il essaie de raconter son histoire.
Il y en avait beaucoup à dire, puis c'était intéressant de l'écouter. Mais regarde, il y avait Guillaume Raté-Côté hier, il y avait une ambiance festive. Je veux dire, t'avais peut-être la tête un peu plus ailleurs, t'avais peut-être envie d'embarquer. Moi, je te dis pas peut-être. Hier, t'étais là en tabarouette, là, t'avais envie d'embarquer, tu prenais ta place tellement que à moi, là, tu me dis... Laisse-moi finir 3-4 fois. Guillaume essayait d'embarquer. Tu disais, laisse-moi finir aussi. T'as pris le contrôle hier.
Peut-être un peu trop. Je me souviens de la pensée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai interrompu Jimmy. Puis avec le recul, je suis capable de voir que c'est de l'arrogance, mon gars, mur à mur. Parce que Jimmy, là, il a parti comme une locomotive. Il avait déjà son idée, il avait déjà sa ligne. Il voulait nous raconter quelque chose. Ben moi, là, plus ou moins consciemment, c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Là, ce qui a monté dans ma tête, là, c'est « Hey, il va pas prendre le contrôle de l'entrevue, lui-là. »
Pourquoi pas?
Ben exactement.
Pourquoi pas? Pourquoi c'est lui pas? La vedette, c'est
écoute,
simple.
On l'invite, on est pas armé de l'avoir, puis on est super content. Puis moi, l'arrogant, inconsciemment, ce qui monte dans ma tête, c'est qu'il va pas prendre le contrôle de l'entrevue.
Il faut jamais laisser un invité prendre le contrôle de l'entrevue dans la mesure où est-ce qu'il va nous faire excéder le temps, où est-ce qu'il va s'en aller dans des chemins où est-ce qu'on veut pas l'amener. Ça, faut pas le faire. Mais un invité qui prend beaucoup de place puis qui parle, laisse-le aller si c'est dans le cadre puis dans l'angle que tu veux prendre, puis qui nous fait pas dépasser notre temps de 15-20 minutes, laisse-les aller. Ça, c'est lui la vedette du moment.
Puis là, le pire, c'est qu'on connaît pas la fin de son histoire.
Mais on va le savoir parce qu'il y a une compétition le 19 janvier outre-mer. Puis moi, je l'ai texté hier parce que j'ai dit qu'on l'avait vraiment trouvé intéressant puis qu'on trouvait ça plate un petit peu, qu'on n'ait pas eu assez de temps pour jaser avec lui. Fait que probablement qu'au mois de février, Jimmy Paquette va revenir nous voir pour nous parler de ses compétitions du mois de janvier. janvier. Fait qu'il va avoir du jus, il va avoir de la viande après là, ça en plus, là, parce qu'il va avoir déjà commencé ses compétitions de l'année. Fait que ça va être le fun de le revoir. Puis peut-être que là, finalement, on va entendre le fin mot de l'histoire.
Je pourrais faire mes amendes honorables puis m'excuser à genoux dans la vie de casser.
T'auras pas le choix parce qu'il te lève d'une main.
Même s'il me levait pas d'une main, je veux dire, c'est ça n'a aucun rapport.
Regarde, c'est ça que je te disais hier, l'importance de se réécouter. Il y en a beaucoup de gens qui se réécoutent pas ou qui voient les gens qui se réécoutent comme faux. Ils voient ça comme du narcissisme ou de la masturbation de l'esprit. Mais non, on se réécoute parce qu'on veut s'améliorer. Puis là, tu t'es rendu compte des erreurs que tu avais faites. Puis c'est tout à ton honneur de te rendre compte de ça puis d'avoir l'humilité de dire « Calif, je me suis planté là, puis je vais m'améliorer. »
Mais le plus souffrant, là, c'est que moi, je me prends pour quelqu'un qui a une très bonne écoute, mon cher. Écoute, le
plus qu'on pense qu'on est
très
fort.
Évolué, au-dessus de la moyenne. Ah, oui. J'ai des leçons à donner à ben du monde. Et hey, puis là, j'écoute ça, je dis « t'es pour qui tu te prends, toi? »
Plus qu'on
là?
Pense qu'on est fort, moins qu'on est fort. C'est tout le temps ça. Le sage sait qu'il n'est jamais plus faible que lorsqu'il se croit très fort.
Ouais, exact.
Ouais, c'est vraiment vrai parce qu'on dirait qu'on sort, on vient trop à l'aise. On vient trop à l'aise carrément quand on se pense trop fort. Moi, j'ai déjà travaillé pour Bell dans le temps qu'ils installaient encore des soucoupes. Puis le premier conseil qu'ils nous donnaient quand on montait dans une échelle à 50 pieds de hauteur, dans les grands vents puis dans la glace, c'était le jour où est-ce que vous aurez plus peur puis que vous serez plus stressé en haut de l'échelle, c'est là qu'il va vous arriver des accidents.
Ouais.
Faut toujours se garder un petit stress. Tout le temps. On n'est jamais certain de ce qui peut arriver.
Puis là, le pire, si tu me permets, là, c'est moi qui t'ai proposé de ramener ça sur la table comme sujet parce qu'on est dans les vraies affaires puis c'est ce que j'adore de cette émission-là. Mais si toi, tu avais décidé de ramener ça, puis de dire, hey Pierre, hier.
Non, moi, je t'en aurais parlé hors d'onde, évidemment.
Mettons que tu m'en aurais parlé en onde comme on fait là. Tu aurais dit, hey Pierre, hier, j'ai réécouté le début de l'entrevue avec Jimmy, puis sais-tu que l'écoute était pas trop là, puis puis que tu m'aurais dit ce que je t'étais en train de dire.
Tu te serais senti quoi, attaqué un peu?
Ben, écoute, ça aurait été.
Ça aurait moins bien passé,
ben,
évidemment.
Je l'aurais pas pris pantoute.
Non, puis je me serais pas permis non plus de dire quelque chose comme ça en onde.
Pourtant, c'est la même affaire, là. T'sais, c'est le même sujet. Si ça vient de moi, c'est correct.
Ben, c'est
si
normal. C'est normal. C'est une prise de conscience qu'on fait pour soi-même. Ça, c'est de la connaissance acquise. Peu importe ce que les gens peuvent te dire, tu peux juste y croire. La seule vraie connaissance, c'est quand tu as ressenti, quand tu as vécu quelque chose toi-même. C'est ce qui est arrivé. Fait que bravo. Je veux dire, tu fais déjà un excellent travail, puis ça va continuer de s'améliorer avec le temps, évidemment. Puis pour ma part aussi, il n'y a personne de parfait. Il est 8h41, on est le 6 janvier 2019. L'émission commence là.
I'm gathering people wherever you roam. Around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Là, je vais en parler une fois. Parce que j'étais cœuré d'en entendre parler, c'est au possible. Puis je pense que vous à la maison, vous êtes probablement comme moi, écœuré d'en parler, d'en entendre parler dur comme de la roche. Là. Honnêtement, moi, ça pollue mon fil d'actualité depuis 2 semaines. On voit rien que ça, ces réseaux sociaux. Mais je veux en parler. Parce que ça a l'air important pour plusieurs personnes. Puis pour l'autre partie des gens, ça a l'air complètement ridicule à leurs yeux. Les résolutions de nouvelle année.
Fait là, t'as pris quoi, une résolution d'en parler ou de pas en
j'ai
parler?
J'ai pris la résolution d'en parler, mais je te dis, tu vas m'entendre parler
pour dénoncer
une
les résolutions.
Seule fois. Pas nécessairement, mais je vais en parler parce que moi, je t'écœurais des voix passées. Puis je veux dire, aujourd'hui, on a pratiquement tout le monde a Facebook ou Instagram. Moi, j'ai juste Facebook. Je suis pas gros réseaux sociaux power. J'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas toutes ces affaires-là. Puis il y en a plein d'autres aussi. Mais tabarouette, tu scrolles sur Facebook, puis tout ce que tu vois, c'est ça, là. La prochaine année sera merveilleuse. Ah, 2019, je prends des résolutions. Ah, 2018 a été difficile. Tabarouette, que je suis tanné de voir ça. C'est 75% des posts encore des gens. Là, j'ai dit, bon, fois pour toutes, j'en parle. Les résolutions, y croyez-vous? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui fait qu'on attend une date précise pour décider de devenir une meilleure version de soi-même? C'est toutes des questions qui sont complètement mystérieuses à mes yeux, à mes oreilles. Puis j'aimerais ça qu'on en jase. Si vous voulez participer, garde comme d'habitude, 88-903-5969. Pierre-Eugène puis moi, on est des gars qui s'entraînent. Moi, j'ai recommencé dernièrement parce que j'avais été malade, j'avais eu une opération, puis en plus, après ça, j'étais tombé malade. Fait que, tu sais, mon entraînement dans les trois derniers mois et demi, là, ça a été zéro puis une barre. Je pense que je me suis entraîné trois semaines sur les derniers quatre mois, tu sais. J'ai vraiment pas eu de chance, j'ai pas bien été. Puis l'important dans ce temps-là, c'est de se reposer puis d'accepter qu'on perd 25 livres avec la larme à l'œil, mais tu sais... Faut passer par là. Puis je dis avec la larme à l'œil,
larme de sang.
Mais avec, mais avec la plupart des gens qui nous écoutent probablement, qu'eux autres disent tabarouette, moi j'aimerais ça perdre 25 livres. Mais moi c'est l'inverse, t'sais, moi je veux prendre du poids. Fait que je suis dans la catégorie
de
gens
de la masse,
qui capotent quand je perds de la masse, parce que je travaille beaucoup pour la prendre à cause de mon métabolisme qui est extrêmement rapide. Fait que là, la plupart des résolutions qu'on voit, c'est évidemment l'entraînement. C'est beaucoup de gens qui disent « je veux reprendre ma shape d'avant les fêtes ». Moi, j'en reviens pas que quelqu'un puisse prendre 15-20 livres en dedans de deux semaines comme ça. C'est mon rêve de prendre 15-20 livres juste parce que je mange trop.
Ben, as-tu entendu ce que Jimmy disait qu'il fait au niveau de l'alimentation hier?
8 repas par jour. Hey, c'est ce que je faisais avant aussi. Il faut que tu te lèves à 6h30 le matin, sinon tu n'as pas le temps de te rendre à ton dernier repas à 11h30 là, le soir, là. Il faut vraiment se faire un horaire structuré et structurant. Ça en est même, je te dirais, des fois essoufflant puis astreignant de se sentir obligé de manger.
Ça arrête de rouler dans la bouche, la façon qu'il parle.
C'est carrément ça. Moi, j'ai passé, je te dirais, une bonne année sans arrêt, à manger 8 fois par jour. Avec mon horaire, là, je me lève à telle heure, faut absolument... Je me fais un shake avant même d'aller pisser. Là.
Ça, c'est comme les couples qui veulent avoir des enfants puis qui sont pas capables, puis qui là, sont obligés de faire des marathons sexuels.
Ah,
là, ils
n'ont
aucun plaisir.
Non, c'est ça.
juste
pour fournir un bébé. Fait que tu sais, il y a l'entraînement, l'alimentation, évidemment, qui entre là-dedans aussi. Moi, je me demande, est-ce que tu crois à ça? Puis si oui, pourquoi les gens attendent, selon toi, en tant que psychosociologue, de attendre une date précise, une nouvelle année? C'est quoi? C'est le sentiment de renouveau? C'est parce qu'ils se sentent pas prêts sur le coup? Il me semble que quand on prend une décision, peu importe la date où est-ce que ça va se passer, il faut le faire là. C'est comme le fameux fumeur de cigarettes qui va se dire, après ce paquet-là, j'arrête. Ça marchera pas. Après ce paquet-là, il va continuer. Tu sais, quand tu décides d'arrêter, là, même s'il t'en reste 12 dans ton paquet, là, tu le fous au vidange puis tu le fais tout de suite. C'est selon moi la meilleure méthode, la meilleure manière d'y arriver, puis la meilleure méthode pour le faire. Fait que là, il y a bien des gens qui attendent le premier, puis ça fait 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois qui remettent ça en disant « Ah, je vais attendre le premier, je fais ça. » Fait qu'on voit ça comme non seulement comme un achèvement, comme un objectif, mais on voit ça comme un nouveau départ, comme passer par go, réclamer 200$. Puis là, ça nous met la pression de réussir absolument pour toute l'année qui s'en vient, au lieu de voir ça une journée à la fois, une étape à la fois, puis d'avoir une croissance puis une constance là-dedans qui va nous amener finalement à un résultat à fil de temps.
Ouais, écoute, si j'étais capable de parler en connaissance de cause de ce que les gens pensent et font, là, probablement que je serais milliardaire. Puis quand j'entends des interventions là, sur les ondes de personnes qui disent, les gens pensent, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça parce qu'on le sait pas vraiment. Mm-hmm. Fait que je peux juste faire des hypothèses.
Exact.
Moi, je crois que, puis je suis dans les croyances, c'est une hypothèse, je crois que les gens n'attendent pas après ça. Moi, je crois que les gens vont prendre des décisions, vont faire des choix tout au long de l'année. Par contre, le premier de l'an, la fin de l'année, le début d'une nouvelle année, c'est comme un cycle. Puis on dirait que parce que c'est le début d'un nouveau cycle, ben ça génère le goût de se renouveler.
Repartir à nouveau.
De faire le point, de prendre un peu de recul, de dire bon, ben là, voici, il y a quelque chose qui vient de se terminer, je repars une nouvelle page, qu'est-ce que j'ai goût qui se passe là-dessus?
J'embarque.
Moi, j'aime mieux penser en termes d'objectifs, j'aime mieux penser en termes de qu'est-ce que j'ai le goût qui rentre dans ma vie cette année, qui n'a pas rentré l'année passée.
Ou j'ai négligé.
Ou j'ai négligé, ou qui m'a laissé sur mon appétit. Puis, les résolutions, c'est juste que on dirait que c'est devenu un petit peu un fourre-tout. Hein? Puis on entend des propos où les gens vont s'embarquer pour un oui ou pour un non dans des affaires plus ou moins superficielles. Tu sais, toi-même, tu le dis quand on compare avec le gym, on le voit là. Oui. Moi, j'appelle ça quand je les vois arriver, là, je disais, tiens, là, les résolutions.
De toute façon, il y a
rentrent,
tellement de pauses là-dessus et deux semaines après, il n'y a plus rien là.
Ben, deux, trois semaines maximum, tu sais, ils rentrent, puis là, boum, ils disparaissent, puis tu les revois plus. Là, tu sais, puis quand ça fait des années que tu es au gym, tu t'en rends compte, tu les reconnais tout de suite. Là,
puis ça m'amène à ma prochaine question. Entre la volonté de faire quelque chose, de tenir une résolution, puis la capacité d'y arriver, il y a comme le grand canyon entre les deux. Là. Comment ça se fait que quelqu'un peut vouloir quelque chose à ce point-là? Reprendre sa santé en main,
perdre du poids. Puis être décidé, là, mais dur comme fer, là. Mais que la capacité de le faire est complètement à l'opposé de son désir de réussir. C'est comme les jeunes qui rentrent au cégep là, en début de session, là, sont motivés, ils se disent « je vais travailler fort, je vais faire mes travaux, je vais faire mes devoirs, je vais étudier, je vais augmenter ma cotère ». Puis ça, cette motivation-là reste jusqu'à presque la période limite pour l'annulation des cours. Puis à partir du jour où est-ce que l'annulation des cours n'est plus possible, c'est là que les gens vont perdre toute leur motivation, puis ils vont se mettre à foxer l'école, puis à couler leurs arbres. Moi, en tout cas, c'est ça que je faisais. J'étais motivé, dur comme de la roche avant de commencer. Puis un mois et demi après, ça baissait. C'était plus là. Y a-tu des moyens, selon toi, pour entretenir cette motivation-là, des outils pour étayer la capacité d'arriver à nos objectifs tout au long de l'année sans perdre la motivation en cours de route?
Il y a des moyens, puis écoute, des motivateurs, il y en a un champ et une barre.
Ouais, mais là, sans être obligé de se taper des conférences puis de jaser avec un sponsor, ou tu sais, je veux dire, chez nous, là, c'est quoi ce maudit phénomène-là? T'es-tu capable d'expliquer ça, toi? Le fait qu'on perd...
Avant, ben, tu connais-tu la colle époxy?
Ben oui.
C'est quoi le principe de la colle époxy?
La colle époxy. Tu veux que époxy. OK, tu veux que je t'explique comment elle fonctionne? Non, ça, je sais pas. Je sais
que la colle époxy,
c'est un mélange de deux...
Deux substances. Exact. Puis moi, avant les fêtes, un des centres d'intérêt que j'ai m'est revenu à l'esprit, puis j'ai eu le goût de dire, tiens, peut-être que je pourrais monter une petite conférence là-dessus. Les fameux défauts de caractère dont on parle souvent en rétablissement. Puis la réflexion m'a amené à dire, qu'est-ce qui arrive quand on mixe différents défauts de caractère, un peu comme de la colle époxy, puis un peu comme certains médicaments. Puis les deux premiers défauts de caractère que j'ai eu le goût de mixer, voir qu'est-ce que ça donnerait comme résultat, là, c'est la peur puis la paresse.
Peur et paresse donnent... qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Vas-y, va.
Ben, la peur puis la paresse, ce que ça donne comme résultat, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est que tu peux avoir des belles résolutions, des beaux objectifs, te lancer des défis.
Puis tout entre la peur là-dedans?
Ouais, la peur, ben, la peur, tout simplement.
La paresse, je comprends.
La peur, là, elle peut avoir deux formes, là, quand on a des objectifs. Ça peut être la peur de réussir.
La peur et la paresse, selon moi, égale résignation un peu, là.
Ben, on laisse tomber tout simplement. Puis là, la peur, juste pour terminer l'idée, c'est que ça peut être la peur de réussir, mais ça peut être la peur d'échouer. Puis d'avoir à faire des efforts, là, la paresse va embarquer, se mélanger là-dedans. Ce qui fait qu'après un certain temps, quand on est confronté à ça, les genoux nous plient, puis on laisse tomber tout simplement, puis on retourne dans nos vieilles habitudes. Puis moi, je le vois se manifester dans ma vie. Moi, j'ai toutes sortes d'aspirations professionnelles qui avancent à pas de tortue, justement parce que je suis aux prises avec ce mix-là.
Puis justement, parce que, tu sais, je veux dire, si tu me permets le commentaire, parce que tu as beaucoup de projets en même temps aussi. Là.
En plus.
Ça aide pas, là.
J'ai beaucoup de projets en même temps, c'est comme un seul et même projet. C'est mon développement professionnel.
Oui.
Puis c'est les efforts que j'ai à faire pour faire avancer ces projets-là. Tu comprends? Puis ça revient à l'idée des résolutions. Il y a des choses que je veux accomplir, des choses que je veux atteindre. Il y a un motivateur qu'on voit beaucoup de ce temps-là là, sur les réseaux sociaux. On le voit sur YouTube. On le voit aussi sur la plateforme TED. Je ne sais pas si tu connais la plateforme TED. C'est des mini-conférences là, de 15-20 minutes sur différents sujets. C'est vraiment intéressant. De mémoire, là, son nom de famille, c'est Speck. Puis lui, il a fait toute une réflexion sur justement la motivation pour rejoindre ta question. Puis il dit que la dernière question que les gens se posent quand ils prennent une décision, c'est le pourquoi. Ils vont réfléchir au comment. Mais ils vont pas réfléchir au pourquoi.
Quand on sait que le pourquoi devrait être la première question.
La première question. Puis moi, je te parle souvent du Zana, puis des fois, tu me laisses entendre que j'en parle peut-être un peu trop, mais ça, c'est moi. Quand tu veux te développer une entreprise, un projet, atteindre un objectif quelconque, si ton pourquoi il est pas clair, puis moi, je le dis avec d'autres mots, là, le bon projet, le bon objectif, il vient avec l'énergie pour l'atteindre.
Oui.
Donc, si j'ai un projet quelconque puis que j'ai jamais l'énergie pour l'atteindre, je peux m'arrêter un instant puis me dire « Hey, j'ai-tu le bon pourquoi, moi, là? » Ouais. Je m'embarque-tu dans une direction qui correspond à quelque chose de fondamental?
C'est quelque chose qui me motive assez parce que j'ai pas encore trouvé mon pourquoi ou si je l'ai trouvé.
Ou le pourquoi que j'ai, ben c'est un pourquoi qui est superficiel, c'est un pourquoi qui tient pas la route, c'est un pourquoi qui va pas
t'inspire pas
justifier,
à ce point-là. L'effort.
Tu sais, comme moi, là, des fois, je me vois samedi, dimanche, là, je suis fatigué, j'ai eu une grosse semaine, puis là, ben, je me lève à 5h30 le matin pour être ici à 7h30.
Là, pourquoi?
Là, je me dis, tabarouette. Puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, j'ai-tu goût vraiment de continuer à faire ça? Pourquoi je fais ça, moi, là? Puis à un moment donné, j'ai dit, non, moi, je laisse tomber ça parce que me reposer puis me ressourcer la fin de semaine puis avoir du temps avec mes enfants puis moi-même, c'est plus important que venir faire de la radio jusqu'à temps que je découvre un pourquoi qui me dit non. J'ai le goût de me lever le matin puis d'assumer la fatigue puis d'assumer l'effort, mais le pourquoi, il venait faire une différence importante, tu comprends? Fait que les gens, souvent, ne réfléchissent pas au pourquoi fondamental dans lequel qui les amène à s'engager dans une direction, puis en cours de route, ben, ça tombe.
Fait que là, il y a le pourquoi, puis là, il y a le quand. Là, c'est le moment, là. 418-903-5969. Je veux que vous embarquiez. Puis j'ai une autre question pour toi, Pierre. Pourquoi? Pourquoi ton fils a brisé ta télé avec sa manette? Là, là, il vous en a parlé un petit peu hier. Je vais vous remettre en contexte. Le 29 décembre dernier, Eugène et ton autre fils...
Dont je pense que ça s'en dénommé, maintenant.
Mais Eugène, tu l'as déjà nommé.
Bon, anyway. Ben, Christophe. Fait,
Eugène et Christophe.
12 ans et 15 ans.
Eugène, 12 ans, joue à des jeux de sport sur le PlayStation avec Christophe, son grand frère. Soccer, hockey. Christophe bat Eugène à plate couture sans arrêt. Toi, t'es pas là à la maison pendant ce temps-là.
Moi, j'ai reconduit mon plus vieux qui demeure plus chez nous. Okay. Fait que je me suis absenté, genre, aller-retour, là, Lac-Saint-Charles, Sainte-Foy.
Fait que là, on s'entend que Christophe doit narguer un peu Eugène aussi. Ah, t'es poche, ah, je vais te battre encore, ah, maudit que t'es mauvais. Puis là, Eugène, à un moment donné.
Christophe, il fait pire que ça.
Ah ouais, c'est pire.
Non, il y a fait juste un sourire en coin.
Hey, fait qu'imagine comment c'est fendant, tu sais. Fait qu'Eugène, il bouille de l'intérieur, il a la face rouge.
Et Eugène, il y a déjà un profil d'impulsivité.
Puis là, à un moment donné, ça explose. Eugène n'est plus capable. Il voit noir. Il prend la manette. Il la balance dans ta nouvelle télé Dell Ultra HD 4K 65 pouces que tu viens d'acheter à 2 500. Ça fait quoi? 2 mois que tu l'as, cette télé-là? Elle est pratiquement en œuvre.
Je l'ai en septembre.
Tu fais évaluer les dégâts. La télé est perte totale. L'écran est complètement fendu.
Ça coûte le prix de la TV pour changer l'écran.
Parce qu'Eugène a tiré la manette dedans. 418-903-5969. Je veux vraiment vous entendre réagir. Premièrement, on va écouter Pierre-Eugène pour savoir. Parce que moi,
je vais dire après, je vais entendre toi ce que tu ferais.
Moi,
avant.
J'ai la curiosité.
Mais là, un petit peu, je vais pas savoir. Je vais ajouter un élément d'information, OK? Là, j'ai eu une chance qui a joué un petit peu en ma faveur parce que j'étais en auto, je reviens de Sainte-Foy vers le lac Saint-Charles, j'ai un texto qui rentre, puis moi, dans ma voiture, là, ça rentre sur l'écran là, de la voiture.
Ouais.
Et là, j'ai Eugène qui m'écrit en panique. J'ai pété la TV. Fait que là, moi, je connais Eugène. Je sais qu'il y a une petite tendance à exagérer des fois dans ses propos. Fait que je continue à rouler. Il me réécrit encore. Il est en panique. Je sais que tu vas me tuer. J'ai pété la TV. Des icônes de face de mort. Des icônes de face qui pleurent. Là, je vois qu'il y a un drame, qu'il y a une tragédie. Il me réécrit.
C'est une télé intelligente, là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pour ça que... Elle peut te dire, faire un autodiagnostic, je suis brisé, il compte de face de mort, c'est drôle.
Et moi, ma première réaction, ben là, je tombe en négation, je me dis, non, il n'y a pas vraiment pété à TV.
Il
y
a quoi à faire.
Il est arrivé quelque chose, là, il est débranché ou je sais pas quoi, il continue à m'écrire, elle marche plus, la panique, là, je me dis, y a-tu vraiment pété la TV?
Toi, tu commences à faire de l'anxiété, tu te dis, voyons, cibole.
Puis là, ben je me dis, il a pété à TV. Là, je t'ai mis chemin de chez nous, puis là, ben il a pété à TV, moi, ce qui monte en dedans de
la
moi,
colère.
Je vais le tuer, là.
Ouais, carrément.
Premièrement, le premier réflexe, tu comprends?
T'as dû entrer chez vous avec la face bleue.
Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a enseigné tout ce qu'il fallait pas faire comme père. Moi, j'avais un père workaholic, absent, violent, perfectionniste, exigeant au-delà de toute imagination. C'était jamais assez, c'était jamais correct, c'était jamais la bonne affaire. Et mon père, c'est sûr que si j'avais été à la place d'Eugène, lui arrive à la maison, il me sac la volée de ma vie, mon gars, là. J'ai des bleus sur le corps pour des semaines. Comprends?
Oui.
Alors, lui, il m'a enseigné qu'est-ce que ça donne de faire ça. J'en connais l'expérience, j'en connais les résultats. Donc, c'est pas vraiment une option qui m'apparaît intéressante. Mais la colère est toujours là, la frustration, l'impuissance. Ah, tabarnouche, je vais faire quoi, moi, là? J'ai pas moyen de me taper un autre TV.
Parce qu'évidemment, que sur le coup, c'est, je veux dire, je vais y casser le coup, mais c'est ton enfant, fait que tu sais très bien que tu feras jamais ça.
Ouais.
Fait que la chose. Première question qui vient, c'est comment je gère ça? C'est quoi?
T'as-tu vu les Avengers quand Hulk prend Loki?
J'écoute pas les Avengers.
Ah, parce que écoute, c'est la scène du film. Là, parce que Loki fait chier tout le monde tout le long du film. Puis à un moment donné, dans le dernier quart du film, il arrive face à Hulk. Hulk, il le prend par les pieds, mon gars, puis il te swing. Bang, bang, bang.
T'avais envie de faire ça?
Moi, c'était un peu ça l'image qui a passé dans ma tête.
Une chance que la fenêtre du salon est fermée parce que je te tirerais
derrière. Tu perds de vue que c'est ton enfant. Tu perds de vue que tu l'aimes. Tu perds de vue qu'il est plus important que la TV. Tu perds toute cette vue là, pendant. Hey,
2500$, ça fait deux mois. Fait
j'ai eu la chance d'être dans l'auto, moi, là, pendant que tout ça se passe dans ma tête.
Pendant que tu fulminais. T'sais.
Alors, je te relance la pression. Ah. Tu fais quoi, toi? Comment tu gères
je
ça?
Je sais pas. Je sais pas.
Fais une hypothèse, fais un essai, quelque chose.
On dit toujours quelque chose, puis une fois qu'on est face à une situation, on est surpris de se rendre compte à quel point qu'on a réagi soit plus fortement qu'on pensait ou avec plus de sagesse qu'on pensait. Fait que, tu sais, je veux dire, j'aurais bien beau émettre l'hypothèse que je veux, me dire j'oserais avec lui, peut-être que finalement je pèterais un plomb, ou de dire je pèterais un plomb, je l'enverrais un mois dans sa chambre, pas le droit de PlayStation.
Ben, premièrement, tu mets-tu des conséquences ou pas?
Oui. Mais avant de mettre les conséquences, je pense que je l'amènerai à comprendre ce qui vient de se passer, pourquoi les conséquences vont arriver. Puis, je veux dire, s'il y a eu une compréhension quelconque de la part de cet enfant-là, de l'importance puis de la gravité du geste qui vient de poser. On s'entend que c'est pas la famine dans le monde puis que c'est pas, je veux dire, la guerre. Là. Il a cassé une télé. Ouais. Sauf qu'il y a quand même un niveau de gravité, de respect, de propriété d'autrui, de gestion de la colère, gestion des émotions qui peut entrer en ligne de compte. Puis ça, je pense que j'aurai cette discussion-là avec lui, évidemment, pour l'amener à une compréhension supérieure dans le futur qui fera qu'il n'y aura plus ce genre de comportement-là. Mais oui, évidemment qu'il y aura une conséquence. Il faut assumer ses gestes à un moment donné dans la vie. Puis ça, il faut l'apprendre aussi.
Écoute, dans le cas d'un autre enfant qu'Eugène, effectivement, là, on serait exactement sur la même page, sauf que dans le cas d'Eugène, cette discussion-là a commencé, il était à la garderie. Alors, Eugène, là, c'est un problème récurrent qui fait partie de sa vie en raison de sa condition. Eugène, lui, a eu une petite paralysie cérébrale à la naissance, puis donc ça se traduit, entre autres, par un certain niveau d'impulsivité. Ça a traversé toute sa vie, puis peu importe où et quand Eugène va se retrouver, il va être confronté à une problématique comme celle-là.
Fait que là, moi, je veux savoir comment toi, t'as géré ça.
C'est un gros phénomène. Okay? Donc, Eugène, là, quand j'arrive, premièrement, moi, la première affaire que je vais vérifier, c'est OK, c'est quoi l'état de situation? Je rouvre la TV, je constate la catastrophe, mon gars. J'ai assez d'expérience en électronique pour voir que la TV est finie. Juste là, l'image qui apparaît à l'écran, là, c'est comme qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Puis je le sais que ça coûte probablement le prix de la TV. Je demande, je me renseigne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je finis par comprendre que Eugène n'a jamais eu l'intention de lancer la manette dans la TV. Premièrement, il n'a même pas réfléchi à ça. Il a eu un geste impulsif. Il a probablement fait un geste de lancer la manette
la
vers
télé
la TV.
La télé est tellement grosse qu'il l'a pognée d'une manière ou d'une
autre. Vouloir la lancer, il a fait un geste vers lancer la manette. Puis la manette, il a parti des mains.
Peu importe.
Elle est rentrée dans l'écran, mais ça ne change rien. Le résultat est là. Ouais. Tu comprends?
Tu gères ça comment?
Alors moi, je retrouve un vieux principe là, qui a émergé dans ma vie. Ça fait plusieurs années. Dans une crise, là, ben, il y a à la fois une crise puis à la fois une opportunité. Fait que la crise, il n'y a rien à faire avec. Elle est là. Je ne pourrais pas la changer. Par contre, je peux commencer à regarder les opportunités qu'il y a là-dedans. C'est quoi les opportunités qu'il y a là-dedans? Ben, je réfléchis à deux, trois phénomènes. Eugène, il a développé définitivement une dépendance aux écrans. La plus grande partie de son temps libre doit nécessairement passer par un écran ou l'autre. Puis il y a des conséquences à ça. Alors moi, là, je vois une opportunité extraordinaire d'amener Eugène à amorcer un virage pour lequel je me casse la tête, puis sa mère aussi, sur comment on va être capable de l'amener à développer des intérêts pour autre chose. Alors évidemment, la première conséquence, c'est que là, il prive la famille de la télévision, donc c'est normal que lui, ça le prive de ses propres écrans. Lui, là, il y a eu un iPad à Noël, il y a déjà une Switch.
Fait que là, numéro un, tu le prives de ses écrans.
Prive de ses écrans, puis là, bien évidemment, pour lui, là, c'est la pire conséquence...
au monde.
Qu'il peut avoir.
C'est pire que la famine, que la guerre, que le cancer, que le féminisme.
Et là, j'explique, je dis, Eugène, là, il va y avoir une bataille dans ta tête puis dans ton cœur, là, pour les prochaines semaines, parce que je te le dis, là, tant que la télévision sera pas revenue, si elle revient, parce que je sais pas encore si
on
aura la capacité de la remettre en place.
Peu importe
là,
quelle télé reviendra dans le salon.
Tant que ça sera pas revenu, là, il va y avoir une bataille dans ton cœur, parce que toi, tu n'auras plus tes écrans, puis là, tu vas avoir à choisir entre l'apitoiement, la colère, la frustration, pourquoi vous me faites ça? C'est pas juste, d'une part, ou d'autre part, regarder les bénéfices de ce que ça va t'apporter de plus avoir d'écran. Premièrement, casser ta dépendance, puis juste tu commences à réfléchir à ça. Deuxièmement, commencer à développer des centres d'intérêt pour autre chose, commencer à t'intéresser à autre chose. Il y a une batterie électronique dans sa chambre, il y a des Lego, il y a des livres à profusion,
ben oui.
Il y a une bibliothèque juste à côté
chez nous. Va jouer dehors.
Exactement, puis je dis l'autre bénéfice, tu vas commencer à réfléchir comment tu peux gérer tes émotions puis tes réactions de façon plus adéquate. Ce qui fait déjà depuis quand même pas mal de temps parce que ça fait partie de sa vie. Okay? Ben lui, il a grandi avec ça il y a 12 ans.
C'est le travail d'une vie, anyway.
Là. Exactement. Sauf que là, c'est un événement là, qui prend de la place puis qui s'étire dans le temps. Puis hier, là,
fait que la première chose que tu fais quand tu arrives chez vous, tu constates, la télé est brisée, tu ravales un petit peu ta colère, tu l'exprimes d'une autre manière qu'en pétant un plomb contre Eugène, évidemment. Fait que là, tu le prends à part. Puis tu jases avec lui tout de suite après avoir constaté ça. Ben, ou il faut un temps pour cogiter un petit peu.
Ben, je l'ai eu dans ma voiture, ça. Je l'ai eu dans ma voiture. Je l'ai eu un peu en rentrant à la maison. Tu sais, là, déjà, la pression avait redescendu. Là, j'ai fait l'état de situation. J'ai parlé avec Christophe. J'ai parlé avec Eugène. J'étais dans ma chambre. J'ai été réfléchir un peu. Puis c'est là que ça s'est imposé à mon esprit. Il fallait que je mette l'accent sur les bénéfices, puis les avantages, puis l'opportunité qui se présentait là-dedans.
Hey, les parents qui nous écoutent, là. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Pierre-Eugène? C'est-tu un gars extrêmement sage ou c'est un gars qui devrait un petit peu être plus une main de fer dans un gant de velours? Je veux dire, au moins se choquer un peu. Je veux votre opinion. Si vous aviez vécu ça, là, 418-903-5969 pour nous rejoindre en studio, je trouverais ça vraiment drôle qu'il y ait des gens qui réagissent. Pierre, continue ton affaire.
Ben, je peux te dire que tous les jours, parce que ça, c'est arrivé le 29 décembre, à tous les jours jusqu'à hier, Eugène, là, il s'est essayé de toutes les façons possibles et imaginables de récupérer ses écrans. Sûr. Il est démuni, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Faut que je l'accompagne, je le tire par la main. Bon, bref, il y a eu tout un travail à faire. Puis hier, ben là, c'était un petit peu drôle parce que moi, je l'ai une semaine sur deux, je suis monoparental, garde partagée. Alors hier, il retournait avec sa mère. Et là, il n'était pas question qu'il parte avec ses écrans.
Puis chez sa mère, il y a des écrans?
Ben, il y a des écrans, mais lui, ses deux principaux écrans, c'est sa Switch et son iPad. Fait que là, j'entends déjà les parents dire, ben là, comment ça, tu sais, s'il y a une dépendance aux écrans, qu'il y a autant d'écrans que ça. On tombe un peu dans un cercle vicieux parce que, comme il s'intéresse à rien d'autre, ben, on a essayé de l'intéresser à d'autres choses, ben, ça marche jamais. Fait qu'à un moment donné, on lui donnait quand même des outils. Puis là, ben, Eugène, à l'école, il est pas capable d'écrire à cause de sa main gauche. Fait qu'ils l'ont mis sur un ordinateur. Le iPad, ben, ça devient un outil éducatif parce qu'il y a un clavier qui vient avec ça. Bon, bref, il y a tout un ensemble de contextes.
Puis là, est-ce que sa mère...
Là, hier, sa mère, elle pète sa coche.
Est-ce qu'elle embarque dans la punition
ben,
avec
pas
toi?
Pantoute. Premièrement, elle est pas au courant de ce qui s'est passé ou elle est au courant très, très partiellement.
Fait que quoi, elle se met contre toi là-dedans?
Ben, elle, là, est outragée que ça soit elle qui doive subir les conséquences de ce que Eugène a fait chez nous. Ben, ce qui se passe chez vous, ça se passe chez vous. Puis ce qui se passe chez nous, ça se passe chez nous.
Il ne sera pas puni chez nous, mais il va être puni quand il arrive chez vous.
Exactement. Aucune solidarité. Wow. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Puis là, ben moi, écoute, là, j'ai tenu mon bout. J'ai dit non, gars, malheureusement, là, dans les circonstances, ma décision va rester telle qu'elle est là. Ça va rester comme ça jusqu'à temps que la situation soit rétablie.
Fait que là, la semaine prochaine, quand Eugène va venir chez vous, on s'imagine qu'il n'aura pas trop envie de revenir chez vous s'il sait qu'il n'y aura pas d'écran pendant qu'il est à la maison avec toi. Fait que là, ça se pourrait que sa mère dise non, finalement, je le garde.
Non, puis ça ne se produira pas.
Non,
ça se produira pas.
Parce que là, c'est poche en tabarouette que ton ex décide d'aller à contre-courant dans cette décision-là. Ça va nuire à son apprentissage
ben,
à lui.
Que, je pense que sa mère, comme ben des parents, puis moi incluant, sa première réaction, c'était sa réaction première. Elle a vu le désavantage pour elle, la conséquence pour elle d'avoir Eugène à la maison, pas d'écran, qu'elle va être obligée de gérer ça
tout le temps. Puis...
Mais là, je pense qu'avec le recul, une fois qu'elle a eu probablement toute l'histoire racontée au complet puis qu'elle a peut-être mesuré l'ampleur de ce qui se passe, je suis pas sûr, par contre, que les trois bénéfices que je t'ai nommés lui ont été formulés. Ça, je vais le faire probablement aujourd'hui. Hier, j'avais pas la tête à ça, là. Aujourd'hui, je vais probablement lui formuler ces bénéfices-là puis qu'elle comprenne là, les enjeux qu'il y a pour Eugène là-dedans.
Puis jamais en 100 ans, dans toute cette histoire-là, ça t'a passé par la tête qu'un petit serrage de bras, là, pas y faire mal, pas le blesser, un petit serrage de bras là, pour le saisir puis dire « Hey, là! » Jamais ça t'a passé par la tête.
Je peux te dire que dans mon expérience parentale, écoute, j'ai élevé trois garçons et trois quarts, là. Dans mon expérience parentale, je peux te dire que j'ai reproduit partiellement, jamais au niveau que mon père pouvait faire, là, des genres de réactions comme ça. Mais aujourd'hui, c'est clair dans ma tête que ces réactions-là, là, ça sert pas l'enfant, ça sert le parent. T'sais.
C'est pour se défouler, tu penses?
Ben oui, absolument.
Puis que l'enfant ait eu une petite peur, puis un petit stress, puis qu'il se dit « Tabarouette, j'ai tellement eu peur ce fois-là, je le ferai plus jamais de ma vie. » Il me semble que ça marchait dans les années 60.
Ce que je fais actuellement, là, ça a plus d'impact parce que...
Ça va l'aider à mieux grandir, évidemment.
Premièrement, c'est rattaché à un événement assez dramatique pour Eugène. Puis pour la famille, parce que là, ça lui a un impact sur toute la famille, d'une part. Puis d'autre part, ça s'étire dans le temps. Fait que lui, c'est à tous les jours qu'il est confronté d'une façon relativement subtile aux conséquences de son geste. Tu comprends? Ça le prive de quelque chose qui est vraiment super important pour lui. Fait que ça, il n'y a pas le choix là, de revisiter l'événement. Et là, ça devient un point de repère pour lui dans l'ensemble de ses réactions. Au moindrement qu'il y a un type de réaction comme ça qui va se manifester à la table avec son frère ou peu importe.
Il va y repenser deux fois.
J'ai qu'à le regarder, là, puis dire, hey, t'es-tu sérieux? Là? T'es-tu encore en train d'aller dans cette direction-là? Puis il allume tout de suite, là. Tu comprends?
Oui.
Fait que moi, je me mets plus sur le volet éducatif, parce que c'est ça mon rôle de parent. Mm-hmm. Puis une réaction physique comme celle qu'on pourrait être porté à avoir, ben qui sert seulement que le parent, il n'y a rien d'éducatif là-dedans.
Je suis d'accord avec toi à 85%. Est-ce que Pierre-Eugène Rioux a bien agi? Est-ce que vous auriez agi de la même manière? Est-ce que vous auriez fait pire? Est-ce que vous auriez fait mieux, selon vous? Ça se peut très bien aussi. 418-903-5969. Je m'adresse évidemment aux gens qui ont des enfants, parce que ceux qui n'en ont pas, on peut avoir bien des hypothèses, bien des idées, mais on est vraiment très mal placé pour parler, puis je m'inclus là-dedans. Ceux qui ont des enfants, 418-903-5969. Il est 9h09. On est le 6 janvier 2019. Ça fait beaucoup de neuf. Ça arrête pas, hein? Vous êtes à l'écoute des vraies affaires. On est avec vous jusqu'à 10h. Le temps file incroyablement rapidement. Restez là. Au retour de la pause, on parle des prédictions du GIEC. Comment? GIEC?
GIEC.
GIEC, du groupe international d'experts en climat de l'ONU, qui est en train de démontrer, en tout cas, qui est en train de se faire démolir là, au niveau de bain...
Contester. Pas démolir.
Au niveau de bain des points. Ouais. Restez là, bougez pas.
Facebook, c'est JMD 96.9.
Vos projets de réno n'avancent pas car vous ne savez pas à qui faire confiance. Rénovation Alain Viel est votre solution. Confiez-lui la responsabilité de réaliser les changements désirés, autant partiels que radical, à votre cuisine, salle de bain, en passant par les planchers et la finition intérieure de tout genre. Il vous surprendra par la minutie qu'il portera, tout en gardant vos lieux propres. Qualité et service impeccables. C'est Rénovation Alain Viel. Passez à l'action au 418-930-5560 ou sur la page Facebook pour obtenir votre soumission gratuite. À l'approche des parties de bureau, pensez au complexe de glace Onco. Réservez dès maintenant l'une de nos deux salles décorées pour les fêtes, avec une capacité jusqu'à 250 personnes dans notre salle des jardins. Clé en main, avec service de bar, traiteur et une équipe dynamique, reste plus qu'à réserver le groupe de musique ou le chansonnier et plaisir assuré. Le complexe de glace Onco, la place pour organiser votre party de Noël dans la région. Informez-vous au 418-839-9982, poste 219 ou événement avec un @complexedeglace.com.
Pour les fêtes cette année, offrez des cadeaux qui portent une histoire et sauront faire une différence dans la vie de quelqu'un. La boutique éphémère Vagabond est de retour au Québec et ce, jusqu'au 23 décembre prochain. Faites vite, quantité limitée. Même endroit, même décor tropical, 1286 avenue Mégoire à Québec. Aimez-nous sur Facebook.
La boutique éphémère Vagabond est de retour au Québec
et ce, jusqu'au 23 décembre prochain. Même endroit, avenue Mégoire à Québec.
Le mercredi 23 janvier prochain, le cégep de Lévis-Lauzon t'invite à ses portes ouvertes qui auront lieu de 17h à 20h. Ce sera l'occasion de découvrir la trentaine de programmes préuniversitaires et techniques qui s'offrent à toi. Le cégep Lévis-Lauzon, ce n'est pas seulement un établissement d'enseignement, c'est également un milieu de vie dynamique axé sur la réussite. Vise haut, exige un cégep performant. Choisis le cégep Lévis-Lauzon le mercredi 23 janvier de 17h à 20h. On t'attend. Pour information, visite le www.cll.qc.ca.
Le Bureau de la mobilité durable de Lévis veut connaître
connaître vos préoccupations concernant un système de transport en commun structurant. Que vous utilisiez le transport en commun ou non, complétez notre sondage au ville.levy.qc.ca/mobilité.
Merci de votre participation. Un message du Bureau de la mobilité durable de Lévis.
Le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous-traitants, particulièrement dans la dénonciation en règle des contrats de construction. Plusieurs entrepreneurs ne dénoncent pas leurs contrats ou le font inadéquatement. Ça peut coûter cher. Une dénonciation mal faite équivaut à une perte de vos droits en cas de recouvrement pour hypothèque légale. Ainsi, vous perdrez la chance d'inscrire votre hypothèque légale de la construction et d'en avoir les bénéfices pour recouvrir votre argent. Nous sommes les spécialistes pour vos dénonciations. Contactez-nous. Protégez votre entreprise de construction. groupehcq.com.
Ici DJ Frankie Town. Vous aviez pas prévu de partir de bureau ou tu veux seulement t'organiser une soirée entre amis? Réserve dès maintenant au Jack Saloon Grande Allée au 418-522-5350. Obtenez 20% de rabais sur le menu de groupe et courez la chance de recevoir mes services comme DJ et animateur. Jack Saloon Grande Allée, 418-522-5350.
Tu répètes toujours la même cassette.
Faites vite, c'est valide pour janvier seulement.
96.9
L'Alternative Radio.
The Alternative Radio Station 96.9. Les vraies affaires.
h 14, 6 janvier 2019, vous êtes à l'écoute des vraies affaires à CJMD 96.9, l'Alternative Radio. Fait plaisir d'être là, c'est bien commencé. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur la page des vraies affaires. Il y a des concours, chemise Valin sur mesure à gagner. Alors messieurs, allez voir ça, ça vaut la peine. Chemise sur mesure, à votre goût, c'est vous qui décidez de tout. Les boutons, les coutures, les revers de manchettes, la qualité, la couleur du tissu, le motif, tout ce que vous voulez. Et puis messieurs, également, il y a une nouvelle crème USANA à essayer pour votre copine ou pour vous-même si vous aimez avoir la peau douce. Allez faire un tour sur le site des vraies affaires, sur le site, je dis toujours sur le site, sur la page des vraies affaires sur Facebook. Ces deux concours-là sont en lice jusqu'à quand, Pierre? Le 26 janvier, je pense?
26 janvier, on va annoncer le gagnant. Par contre, il faudra que le gagnant ou la gagnante nous appelle. Donc,
il va falloir appeler.
Que les gens sont à l'écoute de l'émission.
Ils n'auront pas le choix.
Ouais. Alors, si on nomme un gagnant puis qu'on lui donne, jusqu'à
il faut appeler.
Pour nous appeler, ben, c'est ça. On mettra un délai. Là,
il faut appeler, sinon tu ne gagnes pas.
Exactement.
C'est aussi simple
sinon, on va
que
nommer
ça.
Quelqu'un d'autre dans la liste, parce que là, on a beaucoup de participation sur ces concours-là.
Oui.
Donc,
on faut
va
appeler.
S'assurer que quelqu'un
on lui
méritant
donnera,
le gang.
On lui donnera pas le choix. On lui donnera pas le choix. Là, c'est ça, là. Il y avait des prédictions qui avaient été faites du temps d'Al Gore, avec le GIEC et l'ONU, sur le changement climatique, l'inversement de polarité des pôles, je veux dire...
Non, il parlait pas de ça.
Non? Il parlait pas des courants marins non plus, puis du Gulf Stream, puis toutes ces affaires.
Oui, l'effet Nino, oui.
Exact. Bon, ben toutes ces affaires-là, il y avait quoi, je pourrais dire, établi un profil de ce qui allait probablement se passer dans le futur si on changeait pas nos actions.
10 prédictions.
Exactement. Et puis là, on se rend compte que ces prédictions-là sont en train d'être mises en doute.
Non, elles sont pas mises en doute, c'est que l'ensemble des 10 prédictions qu'Al Gore a faites il y a 12 ans.
Ouais.
Donc, c'est l'anniversaire le 26 janvier. Aucune de ces 10 prédictions-là ne s'est avérée réelle.
Puis on se rend compte qu'il y a deux écoles de pensée aussi. Puis, ben, deux écoles de pensée principales par rapport au réchauffement, au changement climatique. Il y en a bien d'autres. Là.
Une dominante et une autre émergente. Avant de rentrer là-dedans, je te demandais, est-ce que tu connais l'effet Pygmalion?
Oui, mais je me rappelle plus c'est quoi.
L'effet Pygmalion, c'est une prédiction qu'on fait basée sur une hypothèse. Okay? Il y a eu des expériences qui ont été faites avec des rats, des expériences là, en laboratoire scientifique, sociologique. On dit à un groupe d'étudiants, on leur donne une colonie de rats.
OK, je pensais que les étudiants jouaient le rôle des rats.
Non. C'était pas des rats de laboratoire, mais oui, c'était des rats de laboratoire. On prend une colonie de rats, on le sépare en deux, puis là, on dit à un groupe d'étudiants, il y a eu une sélection rigoureuse qui a été faite à l'intérieur de cette colonie de rats-là. Le groupe de rats qu'on vous donne, c'est des rats exceptionnels. Attendez-vous à des résultats exceptionnels au niveau des expériences que vous allez faire avec ces rats-là. L'autre groupe d'étudiants, on leur dit la même chose, sauf qu'on dit ces rats-là, c'est des rats bien, bien ordinaires. Attendez-vous pas à grand-chose avec ces rats-là. Et on se rend compte que les résultats de l'expérience vont faire en sorte que le premier groupe, avec les rats supposément exceptionnels, alors qu'ils ne le sont pas du tout, va révéler qu'effectivement, il va avoir des résultats exceptionnels. Et les rats ordinaires, ben, il va avoir des résultats ordinaires.
Dépendamment de la vision que les gens qui font l'évaluation ont de cet échantillon-là.
Ben,
qui
ont c'est-à-dire que on appelle ça une prophétie autoréalisatrice. Okay. Les gens partent déjà avec un a priori. Tu sais, hier, on parlait des préjugés.
Oh, oui.
Et on voit beaucoup ça au niveau scolaire. Tu sais, un enfant va arriver à l'école, puis il va avoir un dossier scolaire, puis on va dire, ben, cet enfant-là, il y a tel historique, on va s'attendre à telle chose. Donc, on va se comporter envers cet enfant-là en fonction de cet a priori-là.
C'est un peu le phénomène de tu me présentes quelqu'un que j'ai jamais rencontré de ma vie puis que je sais pas c'est qui, puis tu me dis...
C'est un truc de cul.
Non, check bien ça, ce gars-là.
Il est extraordinaire.
C'est un génie.
Exact.
Il a un QI de 230.
Tout ce qu'il va dire, ça va t'avoir
fait que là, peu importe l'air qu'il va avoir, peu importe les conneries qu'il va dire, peu importe l'excentricité de son discours, je vais me dire c'est parce qu'il est tellement intelligent, je le comprends pas, mais puis tu sais, je vais toujours le prendre comme du cash, tu sais. Fait que c'est un peu ça que tu m'expliques.
Alors, c'est l'effet Pygmalion.
Cool.
Alors, question à partir de là, pourquoi je parle de ça? Est-ce que dans notre société actuellement, on subit un effet Pygmalion alimenté à coups de millions par le GIEC.
Ah oui, ça c'est sûr.
Qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a été créé en 1988 en Genève à l'Organisation météorologique mondiale. Budget de 6 millions d'euros en 2018. On parle de l'argent en tabarouette. On dit ce groupe créé en 1988, et là, regarde bien où je m'en vais avec ça, à la suite d'une initiative politique de nature internationale, dépend de l'Organisation météorologique mondiale. En passant parenthèse, ce qu'on vient de dire de Al Gore, le film qu'il avait fait à l'époque, dont le temps est peu.
Mais c'est quoi le...
Laisse-moi aller, attends un peu. Le titre qu'il avait fait à l'époque, le film, là, c'était An Inconvenient Truth.
Oui, exact.
C'est là qu'il avait annoncé les fameuses 10 prédictions dont on fête l'anniversaire là, le 26 janvier 2020.
Il n'y en a pas une qui est arrivée.
Il n'y en a aucune. Puis ça, c'était
à échéance. Là. C'était supposé être arrivé au moment
dépassé.
Où on se
parle. C'est dépassé. Ça fait 12 ans.
Non, moi, rien que 2-3, voire
ben là, je les ai pas.
Tu les as pas?
Je les ai pas listés, là, mais je les ai mis en ligne. Je pourrais aller te les chercher après. Là.
OK.
Donc.
Mais c'est quoi le but? J'ai une question là, avant que tu continues, parenthèse. Là. Si cet effet Pygmalion-là est contrôlé puis voulu par le GIEC, par l'ONU, par les dirigeants, par les gens qui influencent les médias, la société en tant que telle. Si c'est vraiment le cas, là, c'est quoi l'objectif de faire croire au monde qu'on est responsable du réchauffement climatique?
Ben,
il est où le profit là-dedans?
Je vais y répondre indirectement. C'est là que je m'en allais avec ce que je suis en train de te raconter. Okay? Alors, le GIEC a été créé en 88, dépend de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations unies pour l'environnement. Ce groupe-là, il a pour mission d'évaluer, et là, c'est là que ça devient intéressant, là. Sans parti pris. Et de façon méthodique. Fait que la première chose qu'on nous dit de ce groupe-là...
Sans parti pris.
C'est qu'en partant, ils n'ont pas de parti pris.
Ça veut dire qu'en partant, ils ont un parti pris, si c'est la première affaire qu'ils disent qu'ils n'ont pas.
Ils n'ont pas de parti pris et ils veulent fonctionner de façon méthodique. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les conclusions auxquelles ils vont arriver ont des bases scientifiques sans parti pris. Mais là, check bien qu'est-ce qu'il ajoute. Sans parti pris, de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique techniques et socio-économiques, et là, le dernier point, c'est ce qui joue pas mal dans la balance, qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine.
Ouais.
Qu'est-ce que tu comprends de ce que je viens de dire?
Ben, que je veux dire, on a l'air de dire que c'est de la faute des humains si le réchauffement climatique
c'est
arrive
aussi vite. C'est plus
subtil
que ça. Puis moi, non, c'est plus subtil.
Anyway, j'ai toujours été, moi, partisan.
C'est pas ça que ça dit.
J'ai toujours été partisan du cycle. Fait que, tu sais, je veux dire, va où tu vas avec ça, mais
ben,
je te le dis en
je vais te répéter
priori,
la phrase
là.
Parce que si tu ne l'as pas compris, ça veut dire que les auditeurs ne l'ont pas compris non plus, là. Le GIEC a pour mission d'évaluer sans parti pris de façon méthodique, claire et objective les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine. C'est quoi l'objet de leur observation? Qu'est-ce qu'ils observent, eux autres? Sur quoi ils mettent le focus? Qu'est-ce qu'ils regardent?
Sur les résultats de l'action humaine sur le climat.
Exactement. Fait que c'est, La subtilité, c'est que toute l'organisation est basée,
juste
est centrée et axée que là-dessus. Ouais. C'est ça leur mission. Ouais. Eux autres, là, ils ont mis une paire de lunettes où ils vont étudier...
Au microscope,
de toutes les façons possibles et imaginables. Puis dans la conférence que j'ai mise en ligne, là, et c'est pour c'est vers ça que je m'en vais, là, la conférence que j'ai mise en ligne de Vincent Courtillot,
qui est
un géophysicien européen. Sur lequel je vais revenir. Il y a une brochette d'invités qui sont là, donc des tenants du GIEC, avec toutes les positions du GIEC d'une part. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les climato-sceptiques avec une pointe de mépris sur le bord d'être ridiculisé. Et un groupe désapprouve l'autre et essaye de se garrocher par la tête des arguments scientifiques. Quand on écoute ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun des deux groupes arrive avec deux paires de lunettes complètement différentes. Parce qu'évidemment, le GIEC, lui, arrive avec la paire de lunettes qui est basée sur des enjeux politiques, mm-hmm. socio-économiques, de l'observation de l'activité humaine et de l'action puis des conséquences de l'activité humaine sur le climat, d'une part, OK?
Il en dramatise un peu l'activité humaine là-dedans.
Alors que Vincent Courtillot, lui, c'est un géophysicien qui fait partie d'une autre colonie de scientifiques qui dit d'emblée, en commençant sa conférence, qu'il n'est pas un climatologue, qui n'a pas de connaissances en climatologie, qui ne fait pas partie de cette science-là, lui, il arrive d'un autre champ de la science, mm-hmm. avec un autre regard complètement, qui va mettre le focus sur d'autres aspects de ce qui se passe sur la planète, ouais. entre autres. Lui, il va mettre le focus sur l'effet des pôles magnétiques.
Exact.
Sur le réchauffement de la planète. Il est capable de démontrer avec le groupe de scientifiques qu'il représente comment il y a eu des cycles depuis des millénaires sur la planète.
Depuis que le monde est monde.
Et là, comme géophysicien, ben lui, il est capable de nous démontrer signes scientifiques à l'appui, entre autres, au travers des roches, au travers des strates qu'on voit dans les arbres,
ouais.
on peut voir des cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète, puis il est capable de nous expliquer, OK, voici comment on est capable de lire
même
ça.
Même affaire au niveau du sol aussi.
Exactement. Et là, évidemment, il nous démontre ça dans des périodes qui sont extrêmement antérieures.
Fait que c'est la preuve qu'il y a vraiment des cycles de réchauffement et de refroidissement climatique.
Qui étaient là bien avant l'industrialisation.
Exact.
Tu comprends? Et là, ça ne veut pas dire que l'industrialisation a aucun effet sur le climat, sur la pollution ou des trucs comme ça. Mais tout ce qu'on nous raconte et tout ce que le GIEC nous dit est complètement remis en question... à la base même, à la racine même des relevés scientifiques, des méthodes de recherche.
Ah, mais c'est pas étonnant. Le GIEC se penchait seulement sur les causes de l'activité humaine. Ils ont passé ça au microscope, ils ont tout tassé le reste pour évaluer l'activité humaine par rapport au réchauffement climatique.
Ils dénoncent les Vincent Courtillot de ce monde,
exact.
Disant qu'ils savent pas de quoi ils parlent, qu'ils sont biaisés. Et là, finalement, ça devient une guerre de statistiques, d'arguments scientifiques, de lecture de la réalité sur des bases scientifiques.
Ah oui, mais imagine une feuille blanche, là. Une feuille complètement blanche, maculée, 8,5 par 11. Là. Puis là, je dessine un gros point noir dessus de la taille d'un 2 piastres. Là. Si je regarde la feuille au microscope... Là, que je mets le point noir sous le microscope, tout ce que je vais voir, c'est du noir. Mais exact. 98% du blanc, je le verrai pas. C'est un peu ce que le GIEC a fait, là. Fait qu'il peut bien démolir ce qu'il voudra comme argument.
Et ce qu'on voit aussi, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux à un moment donné, je sais pas si tu l'as vu, là, on voit deux personnes face à face avec au sol un chiffre qui est écrit.
Oui, 6 ou 9.
Alors, la personne qui est du côté où on voit un 6 dit, ben là, c'est un 6, là. Ben,
il a raison.
C'est un 6, puis il a raison. Puis l'autre côté, ben, il dit non, c'était un 9, puis il a bien raison. Tu
exact.
Comprends? Alors, on se retrouve un peu dans cette situation-là quand on commence à s'intéresser à cette question-là. Parce que là, je réalise que les fameux climato-sceptiques, je ne sais pas si à un moment donné on trouvera un autre terme, là. Pour le moment, c'est celui qui est en vogue. Là. Les climato-sceptiques en émergence arrivent avec de plus en plus d'arguments scientifiques fondés qui sont amenés par des scientifiques réputés, renommés, crédibles.
Fait que là, ça me ramène à ma question de départ.
Ouais.
Les GIEQ, là.
Ouais.
C'est quoi leur profit, leur avantage d'essayer de faire croire au monde que c'est de notre faute?
C'est pour ça que j'ai commencé avec l'effet Pygmalion. C'est qu'eux autres, ils partent
Penses-tu faire de l'argent avec ça? Ils veulent-tu faire peur au monde? Pousser un produit miracle pour stopper le réchauffement climatique à un moment donné quand tout le monde va être tellement certain que c'est de notre faute? C'est quoi le profit qu'ils ont attiré de ça à moyen puis à long terme de faire croire aux gens que c'est de notre faute que la planète, ça meurt?
Ce qui est associé dans le GIEC, il y a toute une colonie d'individus qui, eux autres, sont du domaine socio-économico-politique, okay? Qui vont ramasser toutes les observations puis les affirmations du GIEC et ils vont en regarder les impacts et les conséquences sur le plan sociologique, économique et politique. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec toute la vague environnementaliste qui veulent changer nos habitudes de vie, qui veulent nous remettre en question dans un ensemble de trucs qu'on fait ou qu'on fait pas ou qu'on devrait faire.
En bout de ligne, on dirait que c'est toujours de faire planer un climat de peur sur la société. L'objectif ultime, je dirais pas ultime, mais tu sais, qui est émanant de tout ça. On dirait qu'on veut toujours nous garder dans une bulle de non-sécurité, de terrorisme, de changement climatique, que la Terre va sauter.
Et le pire, c'est que les politiciens, les économistes, les sociologues qui sont dans cette direction-là, les environnementalistes, jusqu'à un certain point, peuvent être sincèrement orientés de cette façon-là, en fonction de ce que le GIEC rapporte. Tu comprends? C'est pas des scientifiques, eux autres. Faut qu'ils se basent sur quelque chose. Et là, le GIEC leur dit, main dans la main avec les affirmations du film de Al Gore à l'époque, en 2006, que là, on s'en va dans une catastrophe, puis d'ici 10 ans, ça risque d'être la fin du monde. Si on n'agit pas, on va être complètement détruit comme civilisation. Bien, évidemment, quelqu'un qui est pas scientifique, qui entend ça avec des arguments scientifiques, ben il est porté à le croire. Et là, l'effet Pygmalion va embarquer et on va se mettre à faire une lecture de tout ce qui se passe en fonction de ces affirmations-là. Et le public embarque là-dedans à un moment donné. Parce que le public, aussitôt qu'on voit une température un peu anormale ou un peu différente de ce qu'on a vu dans les derniers mois, on perd de vue que dans les 20 dernières années, on a eu des problèmes climatiques et de toutes sortes qui peuvent être expliqués de toutes sortes d'autres façons. Tu comprends?
Ben oui.
Mais l'impact et l'influence du GIEC va donner ça comme résultat. Conclusion, moi où j'en suis dans cette réflexion-là, ben je réalise qu'on est dans une espèce de jeu de balancier où il y a des forces en présence qui arrivent avec des arguments qui vont évoluer. Qu'est-ce que ça va donner? Ben pour le moment, les intérêts économiques prennent le dessus. C'est ce qui fait que là, on entend parler de plus en plus du GIEC et de la place qu'il prend. Il y a des budgets qui sont mis là-dessus, beaucoup plus que du côté des climato-sceptiques.
Ben oui.
Fait que on n'est pas sorti du bois. Comment ça va se régler, gars? C'est juste l'amené qui va nous le dire.
Tout ça pour dire que je l'ai dit en début de segment, moi, je suis vraiment là, non seulement partisan, mais tu sais, fermement convaincu que c'est une histoire de cycle. Puis qu'au niveau de l'histoire de la planète, qui a 4 milliards et demi d'années selon les scientifiques, tu sais, on va dire ça comme ça, entre guillemets, il y a toujours eu des changements climatiques, des inversements de polarité. Il y a eu aussi des catastrophes, des météorites qui ont créé, qui ont engendré des aires glaciaires. On n'est jamais à l'abri de ces changements-là. Qu'on soit là ou non, ça va se passer, ça va se produire sur la Terre, ça se passait avant, ça va se passer après. Puis je veux dire, faut arrêter d'avoir ce maudit réflexe-là, d'espérer que les choses vont rester inchangées et comme elles le sont aujourd'hui, pour toujours, ça arrivera jamais. Les sociétés sont appelées à tomber, des civilisations sont appelées à se lever, les choses sont appelées à changer, le climat en fait partie, l'univers entier est en constant et perpétuel mouvement. Fait que c'est drôle d'essayer de tout garder comme c'est aujourd'hui pour l'éternité.
Jusqu'à ce que ça arrivera jamais. Jusqu'à ce que j'écoute la conférence de Vincent Courtillo que j'ai mis sur la page des vraies affaires en passant, là, avec tout le débat qui s'en est suivi avec les tenants du GIEC versus les climato-sceptiques. Moi, j'étais au départ plus dans une position comme celle que tu viens de décrire. Aujourd'hui, la position dans laquelle je me retrouve, c'est plus une position d'ouverture d'esprit. Moi, je crois qu'il est encore trop tôt, malgré le fait que c'est depuis 1988 que le GIEC là, sonne la cloche. Moi, je crois qu'il est encore trop tôt pour se positionner puis adopter une position ou l'autre. Moi, je pense que la position à adopter actuellement, c'est une position d'ouverture d'esprit, une position d'écoute.
De conscientisation
mais
aussi.
Se renseigner autant du côté des arguments des climato-sceptiques que du côté du GIEC, puis d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ça, puis pas se laisser brainwasher par une position ou l'autre.
Puis d'une manière ou d'une autre, là, même si on décidait là, d'un front commun, là, les 8 milliards d'habitants de la planète Terre, là, de faire quelque chose. On ne pourra jamais empêcher un cycle naturel de changement de climat qui arrive à peu près aux 40 ou 50 000 ans de se passer. Ça va arriver d'une manière ou d'une autre.
C'est d'ailleurs pour ça, puis là, je sais qu'il nous reste juste une minute, mais rapidement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le fameux documentaire sur la révélation des pyramides.
Ouais.
Là, écoute...
Ça vaut la peine.
Je reconnais que ça peut donner l'impression que je mets un pied dans du mambo-jambo, mais j'invite les gens à écouter ce documentaire-là, qui est le documentaire
excellent.
Le plus fascinant que j'ai vu.
Excellent.
Encore une fois, où il va y avoir des scientifiques, des architectes, des ingénieurs qui vont remettre en question toute la science de l'égyptologie sur le but et le sens et l'origine des pyramides. Et ce qu'on nous raconte des pyramides, c'est que c'est une horloge astronomique qui a été créée pour qu'au travers des millénaires, pas des siècles, au travers des millénaires, on puisse nous démontrer qu'il y a des cycles sur la Terre et qu'il y a des choses à comprendre et à voir venir et que ça a à voir justement avec le réchauffement de la planète qui est cyclique.
9h33, c'est janvier 2019, vous êtes à l'écoute des vraies affaires. On retourne la pause. J'en dis pas plus. On parle de la clé d'or.
Riding in my car, and I'm listening to the radio.
The alternative radio station, 96.9.
Depuis 15 ans, Écolivre, c'est votre librairie éco-responsable de livres, de disques et de revues de seconde main de qualité. Passez à notre nouvelle succursale à Saint-Romuald, au 950 rue de la Concorde, suite 101. Pour plus d'informations, www.écolivre.org.
Votre Journal de Lévis vous suit partout. Soyez informés des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre Publisac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informés et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
Francis Veilleux, sa direction et le personnel du IGA Veilleux tient à remercier sa clientèle, lui souhaiter de joyeuses fêtes et une excellente année 2019.
Ici DJ Frankie Town. Vous aviez pas prévu de partir de bureau ou tu veux seulement t'organiser une soirée entre amis? Réserve dès maintenant au Jack Saloon Grande Allée au 418-522-5350. Obtenez 20% de rabais sur le menu de groupe et courez la chance de recevoir mes services comme DJ et animateur. Jack Saloon de Grande Allée, 418-522-5350.
Tu répètes toujours la même cassette.
Faites vite, c'est valide pour janvier seulement.
L'excellent menu de la fromagerie Victoria Lévis-Centreville est excellent et à découvrir. Mais aussi notre bar laitier très varié et bien sûr, notre fromage frais du jour qui vous remplira de bonheur. On y déjeune, on y dîne et on y soupe. Pensez à la fromagerie Victoria. On vous attend au 164 Président Kennedy.
Alors ici Gaston Gourde, je suis le président du conseil d'administration de CJMD 96.9.
Ici Vanessa Villeneuve, alias Double V.
Salut tout le monde, ici Joe Drolet, en mon nom et au nom de mes nombreuses personnalités multiples.
Ici Tiki Côté.
Ici Tiki Raté Côté, là, supposément Tiki numéro 1.
Ta gueule Tiki.
Ici Caro Galant, ça fait juste tatatère.
En notre nom et tous ceux des artisans de CJMD 969 Lévis, on vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes en famille.
Joyeuses fêtes!
Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, portes, fenêtres et rénovation. Trois lettres à retenir. DBL. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandé CA Habitation et certifié Rénomètre. Appelez mes chums Jack, Jean-Michaël et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 boulevard Hamel. GroupeDBL.com.
GroupeDBL.com.
CJMD 96.9 Lévis.
L'alternative radio.
Talk, rock and hip-hop.
Les vraies affaires.
De retour aux vraies affaires, 9h37. Il nous reste un petit 20 minutes ensemble. Rapidement, je vous fais une petite météo. Je pars mon jingle.
La météo, ça fait aussi partie des vraies affaires.
Présentement, Lévis-Québec, c'est moins 2, nuageux avec éclaircies. On est bien. On est bien dehors, on n'a pas à chialer encore. Je vous fais ça version télégraphique parce qu'on a un sujet super intéressant à aborder après ça. Lundi, demain, le 7 janvier, ensoleillé avec moins 14. Mardi, 8 janvier, ressenti moins 11. 80% de probabilité d'averse de neige, on parle de 5 à 10 cm. Mercredi, le 9 janvier, encore de la neige, plus ou moins 10 cm à 80%. Jeudi, nuageux avec quelques flocons, on parle de moins 2. On attend plus petit que 1 cm de neige, 40% seulement. Il n'y a rien là. Vendredi prochain, Vendredi prochain, ciel variable avec 30% de probabilité d'averse, on n'en parle pas. C'est négligeable. Moins 13, par contre, avec un ressenti de moins 22. Donc, les températures normales seront de retour. Samedi, le 12 janvier, ensoleillé. Ouf! Moins 19 ressenti, moins 28. Donc, en fin de semaine prochaine, ça va être assez froid. Et dimanche prochain, dans 7 jours, ensoleillé avec moins 23. Les précipitations sont négligeables. Je vous rappelle que présentement, à Lévis, c'est moins 2. On attend un maximum de 1 aujourd'hui au courant de la journée. Et ben voilà.
Hey, je veux faire un Freud de moi-même. Hey,
arrête. Je sais où est-ce que tu vas...
OK, où est-ce que je vais aller?
Parce que j'ai dit chier à travers...
T'as dit pro-chien.
Ouais, pro-chien.
Ben là, c'est intéressant parce qu'inconsciemment, toi, tu sais que le seul endroit où t'es confronté aux intempéries, c'est quand t'es obligé de sortir tes chiens.
Ah! Pis c'est là, ça que
ben,
j'ai dit.
Ben moi, je peux pas m'empêcher de voir ce lien-là. Là. Tu t'annonces une météo, tu vas être confronté à l'intempérie que tu vas vivre quand tu vas sortir tes chiens. Fait que ça a fait le lapsus pro-chien.
Fait que ça, c'est toute l'étendue de tes capacités de psychanalyse.
Non, mais tu trouves pas que ça...
Oh, c'est très drôle. C'est très drôle. Là, la clé d'or. C'est quoi? Ben, c'est Atanan dans les cités d'or?
Ben, attends un peu. Là, toi, t'es un candidat...
les cités d'or. C'est quoi ça, la clé d'or? Ça ouvre la pyramide de la connaissance?
Avant de parler de la clé d'or, je vais mettre la table un peu. Toi, là, tu m'as déjà dit que tu n'étais pas tellement sujet à faire de l'anxiété.
Non.
OK? Tu t'es pas préoccupé beaucoup. Tu connais pas ça beaucoup, toi, là, être préoccupé, anxieux, inquiet.
On va dire, les moments les plus anxieux de ma vie, là, c'est dans le temps que je consommais beaucoup de cannabis.
OK.
Après avoir fumé une grosse puff de pot, là, je devenais anxieux. Là, je me mettais à être inquiet, stressé.
Paranoïaque.
Pour rien pantoute.
Ouais, ouais.
Pour rien pantoute.
Autrement, c'est pas ton cas. Mais tu reconnais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont victimes de ça.
C'est un fléau.
C'est un fléau, hein?
C'est un fléau.
Puis évidemment, c'est souvent la réponse pharmaceutique qui va être la première réponse, puis vers quoi les gens vont se tourner avec
les
toutes
gens,
les conséquences.
Les gens, ils croient dur comme fer à leur pilule pour ça.
Oui. Non seulement ils croient dur comme fer, mais on en parlait dans d'autres chroniques là, avant les fêtes, qu'on est capable de voir maintenant qu'il y a une pharmacodépendance là, qui s'installe pour les gens qui vont se ramasser avec des anxiolytiques.
Fait que là, la clé d'or, c'est quoi? C'est une méthode ou un livre?
La clé d'or, c'est ce qui me sert aujourd'hui, être capable de te parler avec les yeux en face des trous.
Mais c'est pas
le
pouvoir du moment présent.
Ça va rejoindre un petit peu ça.
Ouais.
Tu vois, moi, actuellement, là, je vis un virage qui me jette un petit peu à terre parce que une de mes principales sources de revenus, moi, je suis pigiste, je travaille autonome. Une de mes principales sources de revenus est en train de virer à gauche complètement. Et là, pour les prochaines semaines, j'ai aucune idée comment je vais tirer mon épingle du jeu.
Fait que là, ça vire à gauche. Fait que tu deviens marxiste.
T'es comique, toi. Mais là, à droite, mais là, à gauche. Ben, on va dire que ça pique du nez dans ce cas-là. Ça s'en va par en bas. Parfait. Ça s'en va en bas sérieux, là. Puis, caractère comme le mien, personnalité comme la mienne, là, moi, je suis capable du contraire. Je suis encore intoxicamment en rétablissement, là. Quand je suis confronté à ce genre de situation-là, là, quand je pique du nez, moi, je pique pas du nez qu'à peu près, là. Je pique pas du nez en tapette, là, dans le sens que je vais à fond, là. Mais moi, je me ramasse, là, avec un désir sincère de mourir à la limite, là, tu comprends? Parce que je vois pas d'issue, je vois pas de solution. Je suis confronté à un degré d'incertitude qui me fait vivre de l'anxiété, qui va se combiner avec un certain degré d'insomnie qui va démarrer un cercle vicieux.
Chose que plusieurs personnes vivent aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se reconnaissent probablement dans ce que
tu dis. Et qui va déborder dans ce qu'on appelle l'ivresse mentale. Parce que là, on se fait un beau petit cocktail d'émotions négatives qui fait qu'on n'est plus capable de réfléchir intelligemment. On perd le focus.
L'ivresse mentale, là, pour faire une parenthèse là-dessus, c'est quoi? Là? C'est qu'on est complètement étourdi par toutes ces pensées-là?
Intoxiqué mentalement.
Ça se ressent biologiquement et physiquement.
Absolument. Ça nous draine l'énergie. les jambes nous viennent molles, ça siphonne notre énergie. Puis là, c'est la boule dans le ventre, dans la gorge.
OK, à ce point-là. Là.
Ah oui, parce qu'écoute, c'est un mix là, de peur, d'apitoiement,
on s'entend que ça vient de l'imagination. Là. Cette anxiété-là qu'on se projette dans un futur qui arrivera probablement jamais. On imagine des scénarios qui seront probablement jamais réalisés. Puis c'est ça qui nous fait, qui nous rend la vie difficile puis qui nous pourrit le moment présent. C'est notre imagination.
Oui, c'est notre imagination, mais toute notre vie,
on imagine le pire.
Toute notre vie, là, c'est l'interaction entre notre pensée puis nos émotions. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de comment j'ai réagi avec mon petit garçon qui a pété à la télévision. Là, ben, j'ai réagi basé sur une interaction entre ma pensée puis mes émotions, puis ça a donné le résultat que j'ai décrit tout à l'heure, puis ça aurait pu donner tout autre résultat, tu comprends? Alors moi, dans la situation où je me retrouve, là, je peux te dire que depuis la fin du mois de décembre là, jusqu'à aujourd'hui, là, je peux te dire que je vis des journées très, très pénibles. Puis là, ça dérape beaucoup. Là. Moi, je me remets en question, je me varlope, je me tape ça à la tête, je regarde tous les défauts de caractère que je peux avoir, là, tout le mauvais côté de ce que je peux être. Ça vire, là, ça part en couille, tu comprends-tu? Là?
Fait que là, ton introduction de sujet, là, ça fait 10 minutes qu'on l'a fait. Ouais. Il te reste 8 minutes pour parler du sujet. Là. Une intro extrêmement bien expliquée.
Okay.
Arrive-moi avec la clé d'or. Là.
OK. La clé d'or, là, tout simplement... Ce que ça recommande, là, je vais te le dire comme ça le dit, puis après ça, on va s'expliquer, puis c'est là que j'espère que tu vas réagir, c'est que on choisit délibérément de penser à Dieu, puis de ramener notre pensée continuellement à Dieu, Dieu tel qu'il peut être pour nous. Ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être...
j'ai entendu parler de ça.
Puissance supérieure, quelque chose de ce que tu voudras.
C'est un peu comme un Ho'oponopono.
Ça peut rejoindre quelque chose de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir... Premièrement, avant de dire ce que ça va donner, là, je peux te dire que c'est un exercice qui est quand même un peu exigeant parce que actuellement, là, moi, je me sens comme si je marchais sur une corde raide.
Tu vois, moi, tu me dis ça, là, puis je me rends compte que je le fais par réflexe depuis toujours.
Comment tu fais ça, toi?
T'sais, moi, je m'en remets pas à Dieu, là, mais j'ai toujours eu une confiance inébranlable en la vie, en l'existence, en l'univers. Puis à chaque fois que j'arrive face à une problématique...
Tu te ramènes dans cette confiance.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Puis ça se fait naturellement chez moi. C'est peut-être pour ça que je suis pas emprunt à faire de l'anxiété, parce que naturellement,
t'as appris à la
mon cœur, mon âme s'en va tout de suite vers l'univers aussitôt que je fais face à quelque chose. Fait que, je veux dire, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais ça me vient naturellement. Même avant qu'on me l'explique, j'ai toujours fait.
J'ai mis le texte de la clé d'or sur la page des vraies affaires. La clé d'or, ça a été écrit par Emmett Fox, qui est un pasteur là, des années 50 de l'Église unie aux États-Unis. Et c'est un des précurseurs de la fameuse pensée positive. Et il nous explique là, la clé d'or en deux petites pages parce que c'est comme toutes les bonnes méthodes, là, c'est la simplicité même. Sur quoi je mets le focus mentalement? Et quelle influence ça va avoir sur mes émotions, mon climat intérieur, puis ma capacité de réfléchir intelligemment.
En gros, ça revient à dire que l'énergie dégagée nous est rendue en énergie concordante. Un peu. On est un aimant à ce qu'on dégage comme énergie. Oui,
exactement. C'est-à-dire que ça va d'abord m'amener dans une énergie plus positive, plus saine, qui va me permettre de ce que j'appelle me remettre les yeux en face des trous.
Exact.
Retrouver la paix de l'esprit, retrouver une pensée juste. Et là, ça m'oblige à laisser tomber la tendance à avoir toutes sortes de scénarios catastrophes. Parce que là, moi, je te le dis, au moment où je te parle, là, dans les prochaines semaines, j'ai aucune idée comment je vais tirer mon épingle du jeu financièrement, quelle direction je vais prendre. Je suis devant l'incertitude la plus complète.
Bienvenue dans ma vie depuis les 4 dernières années.
Puis, avec la différence que moi, j'ai 2 enfants.
Oh oui, on s'entend que le stress est là.
Tu comprends? Oh, j'ai un budget de dépenses fixes, là, de monoparental avec une famille.
Mais veux pas, la manière de gérer ça intérieurement va rester sensiblement la même, même si tu as plus de pression.
T'as tout à fait raison.
C'est ça.
Tout à fait raison. Et le choix de me servir de la clé d'or, de me remettre dans cette dynamique-là, ça fait toute la différence parce que, premièrement, ça me permet de retrouver un niveau de fonctionnement que je perds. Moi, je te le dis, là, si je me laisse aller dans les premières réactions que je ressens confrontées à ce que je vis là, je me roule en boule chez nous. Je sors plus de chez nous, là. Puis,
ça va être plus facile, mais ça règle rien.
Puis moi, je peux devenir facilement suicidaire. Là. Quand je me laisse aller jusqu'au bout de ça, là, je tombe carrément dans un désir sincère de mourir.
Pas rendu là, là?
Je suis pas rendu
pas
là.
Un cri du cœur, là.
Je suis pas rendu là parce que je fais ce que j'ai à faire mentalement pour être capable de me ramener dans l'équilibre dont j'ai besoin pour être capable de fonctionner. Et c'est là que je vais être capable de voir des alternatives, que je vais être capable de voir des solutions, que je vais être capable de passer à l'action dans des directions que j'aurais même pas vues si j'avais pas fait le choix de réactiver la clé d'or dans mon esprit.
Je pense que l'important là-dedans, tu viens de le dire, c'est passer à l'action. C'est toujours rester dans l'action. Moi, les moments là, les plus sombres ou les plus difficiles de ma vie que je me rappelle, là, c'est quand je me complaisais dans l'inaction à me morfondre sur ma situation. Je veux dire, le jour que tu décides de te retrousser les manches puis de faire « whatever », juste passer à l'action. Là. Pas obligé de tout régler tes problèmes en une journée, mais tu sais, de dire « OK, un par un, tabarouette, une journée à la fois,
c'est intéressant
j'agis. »
C'est intéressant ce que tu dis parce que passer à l'action, ça va venir une fois que la pensée juste puis la paix de l'esprit est revenue parce que quand je suis envahi par l'anxiété, par l'ivresse mentale, par toutes ces émotions négatives-là, je suis carrément paralysé.
Tu sais, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est de passer à l'action qui va me ramener.
Ben oui, mais comment tu fais de passer à l'action?
Ça me tente pas. Ça me tente pas. Ben je veux m'ouvrir les veines.
Passer à l'action, ça veut dire que tu choisis une direction, tu prends une décision pour aller dans une direction quelconque.
Pas nécessairement. Je parle pour moi, là.
Ouais, donne-moi un exemple concret. Tu passes à l'action dans quoi alors que t'es...
Disons, comme... dans le dernier mois, là, j'avais été obligé d'arrêter de m'entraîner. Je veux dire, j'ai peut-être bu un peu trop aussi par rapport à ce que j'aurais voulu. Puis, tu sais, je me laissais aspirer dans cette spirale-là. Tu sais, je veux dire, je m'en foutais à barouette. Je suis en train de maigrir. Ah, Colin, la job, ça va pas comme je veux. Tu sais, puis je me laisse... Tu sais, je vis pas de l'anxiété, mais je te dirais que j'étais pas loin de dire que je faisais une mini-dépression. Tu sais, pas loin. Puis là, je me disais, Colin, puis gang. Puis le jour où est-ce que j'ai dit, hey là, tabarouette, recommence à t'entraîner, arrive au travail en forme, remets-toi à la bonne nutrition, arrête donc de boire une bière ou deux par soir, ça sert à rien. Même si je suis pas motivé encore, puis que ça me tente pas, puis que j'ai encore les idées noires, juste le fait de me lever un matin, puis de concrètement me dire, OK, là, je passe à l'action, puis j'agis pour changer ça, c'est ça qui m'a remis de bonne humeur. Puis ça prend pas de temps, ça prend 2-3 jours.
T'as d'abord pris une décision... Puis t'as d'abord choisi une direction.
Mais j'avais pas les esprits.
Avant de passer à l'action.
Oui, bien évidemment qu'il faut quand même dire, OK, qu'est-ce que je fais? Mais passer à l'action, pour moi, en tout cas, c'est ce qui me ramène la joie de vivre, carrément.
Oui. Puis je présume qu'il a fallu que tu te reconnectes sur une force intérieure, d'abord, mentalement, pour arriver à prendre cette décision-là qui t'a amené à passer à l'action.
Oui, ça, puis slash un sentiment d'écœurement de situation, toujours la même affaire parce que je bouge pas.
Par contre, tu vois, la philosophie orientale te donne raison parce que c'est Confucius qui disait ça, l'action entraîne la réflexion.
Ouais.
Fait que dans ce sens-là, ça peut te donner raison. Sauf que moi qui aime bien ça regarder la mécanique mentale et spirituelle qui nous anime, ben dans mon cas, moi, je reconnais que j'ai d'abord besoin de retrouver une paix de l'esprit pour être capable, justement, de passer à l'action. En même temps, je suis obligé de reconnaître aussi, pour te donner raison, que hier, juste le fait de venir ici, de sortir de chez nous, de venir à l'émission, de parler avec du monde, ça me met dans l'action. Puis ça aussi, ça contribue à me permettre de faire le bon choix mental qui va me maintenir dans cette réflexion-là, puis dans cette direction-là, qui va faire que je vais être capable d'aller de l'avant. Fait qu'en tout cas, les auditeurs qui sont à l'écoute, qui peuvent être intéressés par ce que je suis en train de dire là, je vous invite à aller voir sur la page des vraies affaires. J'ai mis le texte de la clé d'or. Vous pouvez l'imprimer, c'est quelque chose que vous voulez garder proche de vous autres. Une fois qu'on a compris le principe, c'est facile de le mettre, de le retrouver. J'allais dire, c'est facile de le mettre en action, pas tant que ça, parce que plus on est anxieux, plus on a peur, plus on est dépourvu, puis qu'on se sent impuissant, plus c'est exigeant de faire ce choix-là, puis de le maintenir.
L'anxiété doit venir aussi avec une certaine impression de perte de contrôle.
Parce que
l'anxieux doit rêver dans un monde utopique, là, de pouvoir tout contrôler, puis qu'il n'y a rien d'imprévu qui se prévoit jamais dans sa vie.
Puis on se projette souvent dans un avenir de marde où le pire va nous arriver.
On se prépare pour le pire.
On voit pas de solution, on voit pas d'issue, on sait pas quoi faire.
Puis l'action, là, selon moi, doit aussi venir avec une acceptation puis une absence de peur d'un changement éventuel et potentiel aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, ceux qui ont une appréhension du changement, tu sais, quand on est bien dans nos petites bottines puis qu'on veut que les choses bougent pas puis que ça reste toujours de même, je veux dire, je pense que ça se peut pas puis que des fois, la peur du changement peut nous empêcher de passer à l'action.
Ouais, t'as tout à fait raison parce que ce que je suis en train de décrire, que je suis en train de vivre, ça me confronte à un changement. Ça m'amène à prendre des décisions qui vont peut-être m'amener dans des directions qui sont peut-être pas celle que je désirerais actuellement, mais à un moment donné, hein, la route s'en va dans cette direction-là, puis c'est ça, ben non, tu crèves. Fait que ça, le temps va me le dire. Je réalise que mentalement aussi, ça change mon rapport au temps. Parce que si je me laisse aller dans cette anxiété-là,
tout passe trop vite.
Mon rapport au temps là, m'amène à observer, à regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Ouais.
Alors que quand je mets la clé d'or en action,
tu penses à maintenant.
Ça me ramène ici et maintenant, ça me ramène dans la seule zone où j'existe réellement puis où je suis capable d'être en paix.
Puis où est-ce que tu as réellement du pouvoir?
Faire confiance, exactement. Et c'est là que de pas à pas, je vais me rendre compte, OK, la prochaine décision à prendre, le prochain chemin à prendre, ça va être ça. Parce que je vais être rendu là. Fait qu'au lieu de pelleter avant qu'il neige ou de traverser le pont avant d'y être rendu, ben je fais le pas suivant. Et là aussi, c'est la sagesse orientale qui nous dit qu'il vaut mieux avancer lentement que de pas avancer du tout.
Ben
moi,
oui.
Si je reste dans l'anxiété, j'avance pas du tout. Si je retrouve la clé d'or puis que je me remets dans cet état mental-là, ben là, j'avance d'un pas à la fois, mais j'avance.
Fait que pour les gens qui ont des problèmes d'anxiété, d'inquiétude face au futur, je veux dire, comment on peut appeler ça aussi, je veux dire, parce que là, ça englobe pas juste l'anxiété, c'est dont tu nous viens de
toute la projection dans le futur, c'est souvent associé à de l'anxiété.
Puis on sait qu'il y en a beaucoup, des gens comme ça. On vous invite à aller faire un tour sur la page des vraies affaires. Regarde, on dit pas qu'on a la recette miracle pour vous guérir de tous vos maux dans l'espace d'un claquement de doigts, mais c'est une belle piste intéressante qui fonctionne pour Pierre-Eugène. Qui doit fonctionner pour des milliers de gens,
écoute,
probablement.
Emmett Fox, là, il est extrêmement connu par tous ceux qui s'intéressent à ce genre de démarche-là. Puis là, tu as fait un lien avec l'anxiété, mais il y a des gens qui sont à l'écoute actuellement qui sont carrément dépressifs.
Exact.
On dit que si tu es dépressif, c'est parce que tu es tourné vers le passé, puis si tu es anxieux, tu es tourné vers l'avenir. Bien, dans un cas comme dans l'autre, tu n'es pas dans ton moment présent. Puis en étant dans ton moment présent, tu retrouves cette paix de l'esprit-là qui va te permettre de faire des bons choix ici et maintenant. Et la clé d'or nous permet de faire ça. Nous sort à la fois des tripes d'ego qui nous amènent dans le passé ou dans l'avenir pour nous remettre dans l'ici et maintenant où on est capable d'agir adéquatement.
Tu sais, c'est drôle parce que tu dis quand on est dépressif, on est tourné vers le passé.
Oui.
Mais ben, il me semble que ça doit se pouvoir. Quelqu'un qui est pris dans le même pattern pour le reste de sa vie, dans une job qu'il n'aime pas, avec, je sais pas moi, des contraintes qu'il n'aime pas, puis qui se projette dans l'avenir dans 30 ans, puis qui se voit encore à la même place, ça peut le rendre dépressif aussi. Puis pourtant, il est tourné vers le futur.
Ouais.
Ah!
Non, ben, je suis pas très bon, mais là, c'est parce que tu me dis que c'est fini aussi, là, gars. Tu me passes un autre.
Sauvé par la cloche.
On pourra repartir là, là.
9h05.
Ton gars en question, là, c'est sûr qu'il est emprisonné dans toute la perception qu'il a de lui-même accumulée dans le passé, puis il regarde toutes les raisons.
On verra ça, c'est une bonne idée. 9h55, c'est fini. Merci d'avoir été à l'écoute. Salut Lévi, on se dit à la semaine prochaine, samedi, 8h30. Merci Pierre-Eugène. Oubliez pas le plus important, faites-vous-en pas trop, restez heureux. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy. T'as coup de changement? Branche-toi à CJMD 96.9, la radio déformatée.
Chez Automobile Prestige DG, ils ont pas peur de l'hiver. C'est pourquoi ils vous offrent 15% de rabais sur toutes leurs batteries jusqu'au 28 février 2019. Automobile Prestige DG, c'est aussi la place pour vos réparations automobiles, vos achats de véhicules usagés ou votre financement, qu'il s'agisse d'une première, deuxième ou troisième chance au crédit. Passez les voir au 6006 Boulevard Sainte-Anne à Lange-Gardien ou visitez le www.automobileprestigedg.com.
Alors ici Gaston Gourde, je suis le président du conseil d'administration de CJMD 96.9.
Ici Vanessa Villeneuve, alias Double V.
Salut tout le monde, ici Joe Drolet, en mon nom et au nom de mes nombreuses personnalités multiples.
Ici Tiki Côté.
Ici Tiki Raté Côté, supposément Tiki numéro 1.
Ta gueule Tiki.
Ici Caro Galant, ça fait juste ta tête.
En notre nom et tous ceux des artisans de CJMD 969 Lévis, on vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes en famille.
Joyeuses fêtes! Ho, ho, ho!
Ta voiture blanche est devenue brune. Ses roues sont remplies de calcium. Lavoto Clean International a la solution pour toi. Un principe de lavage sans contact avec une mousse de nettoyage et à un prix plus qu'abordable. En moyenne, entre 4 et 6 $.
Oui, oui, t'as bien entendu. Entre 4 et 6 $.
Et une option de tirage est aussi disponible pour un concept facile à utiliser. Choisis Clean International. 9 succursales à Lévis, Québec et Drummondville. Des lavotos ouverts 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h30. Promotion et jetons offerts au siège social de Saint-Jean-Chrysostome. Lavoto Clean International. www.cleaninternational.com 418-839-0928
418-839-0928.
Si t'es membre CJMD, tu pourrais épargner. Profites-en.
Le Salon des mariés et robes de bal de Lévis, du 11 au 13 janvier. Près de 90 exposants. Défilé robes de bal vendredi soir, 19h. Défilé des mariés, samedi, dimanche, 14h. Collaboration, distribution, CMK et Mégaphone.
La direction et le personnel du IGA Veilleux et Filles du 53 route Kennedy à Lévis souhaitent à leur clientèle un merveilleux temps des fêtes et une excellente année 2019.
Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informés des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre Publisac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informés et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
Louis, sur ta liste de cadeaux de Noël, là, t'as écrit un scooter.
Un scooter bleu.
OK. Une petite maison à Saint-Tropez.
Ben ouais, à Côte d'Azur.
Puis un cheval.
Un cheval.
OK. Puis là, à la fin, t'as juste écrit Vegas avec plein de points d'exclamation.
Vegas.
Là, c'est parce qu'on avait dit 20$ max pour les cadeaux.
Ben oui, mais Nadine, ça, c'est ma liste au cas que...
Quoi que quoi?
L'Auto 649 a tiré 5 lots garantis d'$1 million au super tirage du 22 décembre. Avec ça, les cadeaux risquent de prendre une pas pire coche. L'Auto 649, 18 ans et plus.
Ce message s'adresse aux travailleuses et aux travailleurs autonomes de la région de Québec. Vous...